Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, en direct de l'Euro. Oui, ça y est, c'est parti, on ouvre l'Euro. Magnifique émission, magnifique mois qui s'annonce dans Rotten sans flamme, comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, on ne s'arrêtera pas tout au long de l'Euro et on sera sur place. On aura tout, l'intégralité sur RMC. Il n'y a que sur RMC que ça se passe comme ça. Et toute grande compétition qui débute, on a une équipe incroyable. À commencer par le boss du boss de chez des médias, c'est Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis ?
Ah bah oui, on est à bloc là.
Oh. Ouais. On est avec une légende.
Oui.
C'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir messieurs, mais il travaille même le vendredi, Jean-Louis maintenant.
Ah, c'est l'Euro, il s'arrête plus. Imagine qu'il était ce matin à 7h du matin chez Apolline de Malherbe. Quel bosseur chez l'événement.
Je l'ai écouté.
Quel bosseur. Et Jean-Michel, on accueille une nouvelle recrue. Un ami de Rotten sans flamme, il est là.
Enfin, qu'est-ce que tu lui as mis?
Et j'ai toujours cru au stade brestois, c'est Eric Roy. Salut Eric.
Salut Jérôme.
Ça va,
salut
Eric
à tous.
Salut Eric.
Bonjour. Bonsoir la légende. Hein. Je peux faire parler à la légende.
Allez. Ça va Eric?
Eric, l'émission commence par un gros mensonge. Hein.
Quel mensonge,
Jean-Michel.
Mais non, mais c'est entre Eric et moi.
Non, mais attends.
Pas de nos affaires.
Mais Jean-Michel, de quoi tu te mêles? J'ai joué avec Eric. Oui. Et j'en ai fait le meilleur entraîneur de Ligue 1 aussi. Comme Didier Deschamps, j'en ai fait un champion du monde. Attends, c'est incroyable. Franchement,
c'est tout ce que tu touches, c'est
fou. Ah, c'est fou, c'est fou, Eric. Bravo.
Eric, bienvenue.
En tout cas, ça me fait plaisir de faire l'Euro avec toi.
On est ravis d'accueillir sur RMC pendant un mois donc le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison.
Hein. Eric The King.
Ah oui, bien sûr. Oui. Tu vas pouvoir, Eric, nous apporter ton expertise, ton regard sur tous les gros matchs de l'Euro dans Rotten sans flamme, dans l'intégrale Euro, bien sûr. Et ce soir, donc, Rotten sans flamme sur l'Euro qui débute dans moins de 3 heures maintenant avec Allemagne-Écosse. Le monde entier va avoir les yeux braqués sur un homme, Jérôme. Clément Turpin, ce soir, l'un de nos représentants français sera au sifflet.
On a hâte.
Malgré toutes tes critiques de la saison, Jérôme.
Tu seras donc, le seul, ouais.
Tu seras donc l'accusé du soir. Accusé d'avoir été injuste avec Clément Turpin, hein, et tu seras face à une autre de nos recrues pour cet Euro, Stéphane Lannoy, qui interviendra sur toutes les questions d'arbitrage pendant la compétition. Il sera avec nous.
Et toujours à la Fédé.
18h30. Tu sais bien, Jérôme, fais pas l'innocent. Il a été démis de ses fonctions dans la saison. Et puis à 19h, dernier épisode de notre grande opération tout au long de la semaine.
Là, on finit par le mieux.
On a revécu ensemble les plus grands moments d'émotion du foot français. L'Euro 84, l'Euro 2000, l'Euro 96 qui nous a emmenés à 98. Et ce soir, l'Euro 2004, Jean-Michel.
Qui a lancé la Coupe du Monde 2006.
Ah bon?
L'Euro 2004 de Jérôme Rotten. Tu parles de 96. Voilà. Tu me parles de 96. On a lancé la Coupe du Monde 98. Ouais. Eh ben, en 2004, c'est ce qu'on a fait.
Ça nous a pas sauté aux yeux, mais tu nous raconteras ton Euro, Jérôme.
Et puis là, je vais tout raconter. Hein.
Tout?
Ah ouais. Bon, tout. Restez avec nous, je peux vous dire, il va y avoir de belles révélations.
La complicité avec Zidane aussi?
Tout. Il y aura beaucoup de sincérité.
Donc, ça c'est l'Euro symbolique à 19h. En plus de cela, Julien Cazard sera là à 18h45. Donc, pour te souhaiter la bienvenue, Eric. Il a préparé quelque chose, Julien, tout à l'heure. Et puis donc,
il a fait quelques chansons.
Oui, exactement. Et puis donc, l'expérience RMC continue encore ce soir. Hier, on a envoyé un auditeur de Rotten sans flamme à France Pays-Bas.
Ah oui, c'est incroyable.
Ce soir, soyez attentifs, vous allez peut-être pouvoir gagner vos places pour France-Pologne le 25 juin prochain. Le voyage à Dortmund, la nuit d'hôtel, le vol, la rencontre avec les équipes RMC et les deux places pour cette rencontre. Soyez attentifs à l'alerte sonore. Elle n'a pas changé, c'est le coq. Dès qu'il tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 732-16. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Allez, on y va, c'est parti pour un mois de régalade et on espère une grande équipe de France.
Alors les Bavaroises, ça va? Toujours en tracteur?
Vous n'êtes pas content?
triplé.
M'excuse pour la dernière fois, mais comme un con, j'avais oublié le frein à main. C'est pour ça que j'avançais pas.
Ça revient les pieds de Mbappé. Oui. Et cette fois-ci, oui. C'est la bonne. C'est la bonne. Oui. C'est la bonne.
Maintenant, ça va beaucoup mieux là. On se refait un petit lièvre ou vous restez ridicule?
Bah déjà, on a quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste.
Ça va, ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça.
Je t'ai vexé là.
Je vais te faire exploser ta pute.
Je t'ai vexé là.
Et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Tu vas payer pour ton insolence.
Oui. Au mieux être insolent que ridicule.
Vous savez, un grand conquérant est un homme seul. Je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi. Et j'ai envie de crier à une femme.
Je n'ai pas changé.
C'est donc
vas-y Jean-Michel, chante.
C'est parti pour l'Euro donc sur RMC. 4 semaines de folie de 15h à 1h30 du matin les soirs de match, avec donc toutes les rencontres en direct, l'after, la libre antenne. Ce soir donc l'antenne est là jusqu'à 1h30 du matin avec Allemagne-Écosse donc à 21h. L'ensemble des 51 matchs, ce sera d'ailleurs en intégralité sur la radio 100% Euro qui est disponible sur l'appli RMC. Et on va débattre tout de suite autour des Bleus. Vont-ils assumer le statut de favori? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Mais direction Munich, à quelques heures du premier match, allons prendre la température avec Nicolas Pelletier, l'un de nos envoyés spéciaux en Allemagne. Salut Nicolas.
Salut Nico.
Salut messieurs, salut à tous.
C'est le calme avant la tempête, avant l'embrasement en Allemagne.
Exactement, nous sommes à l'entrée du stade ici à Munich où les portes viennent d'ouvrir à l'instant à 18h, où les milliers de supporters allemands qui patientent devant le stade très gentiment, tout calme, ils sont en train de scanner leur ticket pour entrer et aller voir.
Alors match malheureusement d'ouverture. Nicolas, on n'arrive pas à avoir une liaison correcte, donc ça va être compliqué, mais visiblement c'est l'ambiance loin, est en train de monter. Ouais. Jérôme, est-ce qu'on va réussir à assumer notre statut de favori selon toi? Ça nous a pas toujours réussi dans l'histoire, on a en tête l'Euro précédent justement.
Non, c'est vrai, malgré tout, Jean-Louis, je pense qu'il y a plusieurs favoris aujourd'hui, au contraire de 2021 ou 2020, mais l'Euro s'est passé en 2021 à cause du Covid. Je trouve que là, on était vraiment parmi le favori, du moins le favori de l'Euro, avec cette attaque incroyable, Karim Benzema qui allait être Ballon d'Or, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, on avait un effectif et tout le monde nous attendait, on disait l'équipe elle est encore plus forte qu'en 2018. Il y avait Paul Pogba aussi, il y en avait d'autres, il y avait des grands joueurs partout, mais ils étaient bien dans leur club. L'équipe de France rayonnait même sur les matchs de préparation. On avait gagné la Ligue des Nations, Jean-Louis, hein, oui, c'est ça. Oui, on a gagné avec des nations. Donc, automatiquement, en ayant le statut de champion du monde, on attendait une belle perf et puis on s'est fait surprendre. Parce qu'on a certainement mal géré dans l'ambiance, mal géré certains caractères. Didier Deschamps a paru pour la première fois dans une compétition un peu dépassée par rapport à cette image-là et l'ambiance du groupe. Donc méfiance. Et aujourd'hui, même si on est vice-champion du monde, j'ai pas l'impression qu'on ait dégagé beaucoup de force sur les derniers matchs collectivement. On s'est fait surprendre plus d'une fois. Je dis surprendre parce que pour certains, ils nous expliquent tous que c'est des matchs amicaux, des matchs d'entraînement, donc c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave par moment de donner cette image-là et que on a pris une leçon face à un des favoris de l'Euro. Quand il va débuter ce soir l'Allemagne, on l'a pris une leçon au mois de mars. Alors pour plein de raisons, ça sera peut-être différent si on les rejoue, mais on a pris une leçon quand même et on s'y attendait pas. On peut pas dire contre le Chili, ça nous a rassuré. Et puis les deux derniers matchs cacahuètes contre le Luxembourg et le Canada, surtout le dernier contre le Canada, même s'il y a quelques absences du côté de l'équipe de France, ça m'a pas rassuré pour avoir ce statut, comme tu dis, de favori de l'Euro.
Jean-Michel.
À mon avis, on est loin d'être le favori de l'Euro. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui vous donne autant de certitude. Je pense qu'il y a un favori qui nous a donné une leçon. Et puis, quelle leçon? On n'a pas touché le ballon ce soir-là. Mm-hmm. On a été dominé à peu près dans tous les domaines. C'est l'Allemagne. Et qui plus est, à domicile, on sait quand même que depuis la nuit des temps, que ce soit en Coupe du Monde ou lors des Euros, l'équipe hôte est quand même la plus favorisée pour différentes raisons. Et l'Allemagne qui était à la rue il y a un an et demi, deux ans, s'est refait une santé au travers de son équipe nationale, mais au travers de ses clubs aussi, hein, que ce soit Leverkusen, ce soit
Dortmund,
le Bayern, que ce soit Dortmund, ils étaient tous présents dans les derniers carrés, voire les finales de Coupe d'Europe. Donc je pense que le favori, il est là. Et puis derrière, il y en a un paquet. Hein. Il y a un paquet d'équipes qui peut prétendre ça. En premier lieu, peut-être pas la France d'ailleurs. Moi, je mettrais le Portugal avant.
Ouais, c'est vrai. Tu as raison.
Moi, je mets le Portugal avant.
Tu mettais beaucoup d'équipes avant la France, j'ai l'impression.
Pas beaucoup.
Moi, j'en mets deux ou trois.
Portugal.
Ouais.
Angleterre.
Non, les Anglais, j'aimais
pas. Pas l'Angleterre. Mais il y a une équipe qui peut surprendre aussi, alors qu'elle a perdu ses éléments majeurs, qui est la Belgique, hein, qui a fait des bons, qui est en bonne forme et qui a fait des bonnes choses, qui s'est pas libéré de Courtois parce que c'est lui qui a pas voulu.
Mais c'est finalement, lui qui s'est libéré de la sélection.
C'est incroyable quand même ce garçon-là. Et bon, il paraît quand même que c'est une famille un peu particulière. Il y a pas que lui qui est difficile à gérer. Il paraît que le papa est de la même trempe. Donc, mais depuis là, tu as une équipe qui tient véritablement la route. Les Espagnols, j'y crois un peu moins. Bah, un peu moins, et j'y crois même un peu moins avec les tenants du titre. Donc voilà, donc on est dans le peloton de tête. On suce la roue.
Bon, bah, donc il y aura pas d'excès de confiance vu ce que tu
normalement non. Et c'est pour ça, Eric, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, comme Jean-Michel, on n'est pas le favori de l'Euro.
Eric, quoi?
Clairement, c'est vrai que c'est des compétitions qui sont toujours très serrées, et c'est vrai que vous les avez citées, hein. Moi, je mets les Anglais quand même dedans parce que je trouve qu'ils ont une nouvelle génération et que mais il y a 4-5 équipes effectivement qui font effectivement partie des favoris. On en fait partie vraiment, et je pense qu'on sera capable d'assumer ce statut si tout le monde est à son niveau. Et la grosse problématique aujourd'hui de l'équipe de France, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal d'incertitudes sur quelques joueurs, et notamment des joueurs dans l'entrejeu qui sont souvent des joueurs titulaires, Rabiot, Tchouaméni, qui n'ont pas encore joué un match de préparation. Voilà, même s'il y a des garçons derrière de grande qualité. Donc voilà, est-ce que l'équipe sera à 100% physiquement, athlétiquement, et puis après sur le point technique, s'ils sont bien au point physiquement, ils seront capables de répondre. Donc, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Moi, en fait, ce qui me préoccupe, c'est la santé réelle de cette équipe de France plutôt que les adversaires.
Ouais, en plus, pour rebondir sur la santé réelle de l'équipe de France et de certains joueurs, même Didier Deschamps, Jean-Louis, pour répondre à ta question, pour être favori, je suis désolé, tu dois avoir les grandes lignes de l'équipe de France aujourd'hui. Est-ce qu'on sait comment on va jouer? Non. Même Didier Deschamps se pose la question.
Est-ce qu'on sait avec qui on va jouer?
Avec qui on va jouer? Non, non plus. On ne sait pas. La charnière centrale, le côté droit, bon, j'en parle, mais bon, là, même si ça paraît aujourd'hui être Koundé qui a une longueur d'avance sur Klos ou Pavard qui peut jouer là. Bon, au milieu de terrain, le retour de Kanté a redistribué les cartes. Oui. On est d'accord. Le positionnement de Griezmann aussi, parce qu'on l'a vu contre le Canada, il a joué très haut en deuxième attaquant, contrairement à avant où il était dans un milieu à trois. Le poste de milieu gauche, est-ce qu'on va jouer à trois ou à deux comme ça a été le cas sur le dernier match? Donc si c'est ça, peut-être que Tchouaméni, qui revient de blessure aussi, ne sera pas titulaire. Peut-être que Rabiot, qui lui aussi a eu des soucis, ne sera pas titulaire, et c'est Kamavinga. Et puis quid de le trio devant si on joue à trois? Parce que si tu joues à trois devant, Kylian Mbappé, on nous a dit il a totale liberté comme au PSG, donc ça veut dire qu'il va jouer dans l'axe. Donc s'il joue dans l'axe, il faut trouver un attaquant côté gauche, alors qu'on était habitué à voir Kylian Mbappé côté gauche en équipe de France. Donc écoute, le seul poste où t'as l'impression quand même que il a une longueur d'avance sur les autres, par rapport au retour de blessure de Coman, c'est Dembélé. Mais c'est tout. C'est la seule certitude qu'on a sur le secteur offensif. C'est quand même inquiétant. Je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Michel et Eric, mais c'est inquiétant avant de commencer une compétition comme ça.
Bah, ce qui est certain, c'est que on l'a dit, redit et dix mille fois, il y a fort longtemps que aujourd'hui, si tu donnes à pas des spécialistes, mais à des passionnés du football comme nous le sommes, si tu donnes la liste de Didier Deschamps et que tu demandes l'équipe la plus performante que tu vas aligner, si tu donnes ça à 10 personnes, tu vas avoir 10 équipes de France différentes, et vraiment différentes. Alors, je ne sais pas si ça c'est un handicap. Eric peut y répondre mieux que nous, mais Eric, toi, en tant qu'entraîneur, lorsque tu rencontrais le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tu préférais qu'il soit dans l'axe ou sur le côté? Enfin, quel était pour toi l'endroit où tu avais le plus de soucis pour le maîtriser?
C'est toujours difficile. Moi, la question qui me préoccupait, c'était de lui laisser le moins d'espace possible. Alors après, qu'il soit dans l'axe ou sur le côté, et il est évident que souvent, quand tu pars du côté, tu as un peu plus d'espace, c'est vrai. Et du coup, la problématique que j'avais, c'était que leurs attaquants, parce qu'il y avait Kylian, mais Dembélé, quand il démarre, ça fait aussi mal. Quand c'était le jeune également qui venait d'arriver, ça allait vite aussi. Donc c'est vrai que la problématique, c'était de laisser le moins d'espace possible. Alors, tout en jouant forcément pas dans tes 20 derniers mètres, parce que si tu joues dans tes 20 derniers mètres, tu subis complètement le match.
T'es pas à l'abri,
La problématique, elle était là. Maintenant, sur la santé de cette équipe de France, c'est vrai que nous, on se pose beaucoup de questions parce qu'on voit et il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, je pense que Didier, lui, il a quand même une idée assez précise de ce qu'il va faire par rapport aux forces en présence et tout ça. Donc, est-ce qu'effectivement, il aura une défense à 4, mais qui, quand on aura le ballon, se comportera véritablement à 3 avec un Koundé qui rentrera un petit peu dans l'axe et qui libérera un Hernandez, par exemple.
Ce qu'il a fait sur le dernier match.
Couloir. Donc, il a des alternatives quand même avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc, je pense qu'il a sincèrement sur le premier match une idée précise de ce qu'il veut faire. Moi, ce qui me rassure aussi, c'est que comme vous l'avez dit, alors je parle pas d'excès de confiance, mais justement quand c'est une équipe qui est pas complètement
à quelques doutes
sur les derniers matchs, à quelques doutes et tout ça, et ben on redouble de concentration, on redouble aussi d'attention. On est peut-être un peu plus craintif, donc forcément un peu plus concentré, et que quelque part là c'est là aussi on fait des grandes performances. Donc moi j'aime pas trop arriver dans une compétition, on est très sûr de notre force, on est vraiment c'est arrivé dans le passé et ça nous a pas forcément réussi.
Et c'est
donc aujourd'hui qu'on est
quelque part
sans certitude sur le début de la compétition, ça me pose pas réellement de
ouais, mais pour répondre à ça, tu as raison Eric, et on les a joués ces matchs là quand t'as un petit peu peur, t'es un peu plus concentré forcément parce que t'es pas sûr du niveau à laquelle tu vas évoluer, et on t'attend quand même parce que t'as la pression du résultat comme n'importe quelle grande nation du football, et l'équipe de France en fait partie. Donc tu peux être un peu plus vigilant, en effet, plus concentré, plus dans ta bulle, et c'est là souvent que tu fais des bonnes perfs. Mais n'empêche que cet état d'esprit là c'était pas l'Euro, mais j'imagine quand même que quand tu prends une claque, et c'est arrivé très souvent hein, depuis un an, on en a pris quelques claques hein, quand même, tu vois, la dernière en date, donc on a parlé contre l'Allemagne, tu retrouves la préparation de l'Euro, le match, alors je veux bien que ça soit Luxembourg, que ça soit pas incroyable, mais tu mets quand même une mi-temps pour trouver quelques repères, c'est quand même inquiétant contre le Luxembourg. Mais moi ce qui m'a plus inquiété, c'est que ton dernier match avant l'entrée à l'Euro, c'est le match contre le Canada, ils en ont pris 4 contre les Pays-Bas juste avant. On peut pas dire que c'est la meilleure nation du football. Ah putain, mais on l'a vu le match quand même. Et les joueurs ils sont quand même prévenus que attention, il y a aussi de la concurrence, il y a des postes à où il y a une incertitude, peut-être à gagner une place de titulaire dans la tête de Didier Deschamps. Et les mecs, ils répondent pas.
Donc, alors, j'ai quelques infos à vous donner sur l'entraînement. Donc qui a lieu en ce moment. Donc Fabrice Hawkins, Arthur Perrault, Valentin Jamin, ceux qui suivent l'équipe de France ont deux trois choses à nous indiquer, notamment que Mbappé participe à la séance. Hier, il a été ménagé, il a raté 4 séances d'entraînement depuis le début du rassemblement, donc on est toujours curieux. Là, il participe à la séance, donc à 2 jours de ce match contre l'Autriche. En revanche, pas de Tchouaméni, qui s'entraîne toujours à part avec sa fracture au pied.
Inquiétant, non ?
Ah bah il va pas jouer lui.
Contre l'Autriche, non, mais à voir quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer.
Ah, mais ça aussi, c'est problématique. Hein. Mais bon, vas-y.
Coman aussi s'entraîne à part. Il a une rhinopharyngite. Pas très grave.
Non, bah après, bon, je sais pas. Il paraît qu'il y avait un virus, fort, hein, qui touchait.
Il y a un virus, un petit virus. Et puis, on confirme nos infos avancées hier soir. Grosse tendance pour Saliba titulaire, avec ou pas Mécano en défense centrale.
Ben là, voilà une inquiétude qui révèle, voilà une décision en tout cas qui révèle que on est loin de, y compris chez le dans le staff, d'avoir des certitudes parce que c'est quand même pas un aventurier Didier quand il préfère Saliba alors ce serait plutôt à Konaté
ou oui.
Quand il préfère un Saliba, ça veut dire véritablement que ça doit bouillir dans sa boîte crânienne. Hein. Ça veut dire qu'il a, il doit.
Bah, il mise sur les hommes en forme quand même. Là, pour le coup, il sort d'une grosse saison avec Arsenal.
Par rapport aux autres,
peut-être ça qui prime, non
oui, pourquoi Konaté a été nul?
Non, mais il a été un peu plus, il a moins joué.
Il a moins joué, mais Konaté en équipe de France dégage.
Non, je parle en club là.
Oui, mais ouais, mais après, attends, entre en club et Jean-Louis, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Dire, vous m'avez expliqué sans s'étendre que Giroud, il méritait d'être titulaire, même quand il jouait pas en club, parce qu'en équipe de France, il était bon. Bah moi, je pars du principe que Konaté, à chaque fois qu'il a joué en équipe de France, il a été bon. Mmh. Donc pourquoi aujourd'hui tu retires Konaté? Ouais, et Saliba au niveau international, même si t'as raison, en club, il s'est imposé à Arsenal et c'est une performance.
Et son match contre le Canada était bon.
Et ouais, mais sauf que je vais te dire, j'ai encore quelques doutes sur sa façon. Je trouve que quand il a le ballon dans les pieds. Alors c'est pas forcément toujours ce qu'on demande aux défenseurs dans un premier temps, c'est vraiment de contrer les attaques adverses. Mais quand il a le ballon dans les pieds, franchement, par moment, je trouve qu'il dégage pas une énorme assurance, quoi.
Va-t-on assumer le statut de favori d'un des favoris pour l'Euro? Donc Benjamin nous rejoint au 32-16 pour débattre.
Dans Salut Benjamin. Programme.
Salut l'équipe.
Bienvenue
merci
Benjamin.
De prendre à l'antenne.
Bah non, avec plaisir, avec plaisir. Alors est-ce que tu as des doutes, toi, sur l'équipe de France ou par rapport à l'histoire et par rapport au nom, on est forcément favori de cet Euro?
Ben, en fait, je pense que pour l'Europe, on est favori. Je pense que quand on nous regarde d'un point de vue extérieur, on se dit que vu nos performances passées et les talents individuels qu'a cette équipe et notre génération, forcément, on l'est. Après, pour autant, moi, je pense qu'on a laissé un petit peu passer notre chance dans le sens où c'était plutôt 2016 ou 2021 avec cette sortie catastrophique. Je pense que là, on est vraiment sur un vent d'une nouvelle génération en Europe qui va prendre un petit peu notre relais. On est une équipe qui s'est renouvelée en termes de joueurs, mais pas en termes de stratégie, vous l'avez dit, avec un staff et Didier Deschamps qui maintient une philosophie du jeu un peu archaïque, un peu ancienne. À mon avis, la surprise de 2018, elle est un petit peu derrière nous. Du coup, je vois plus des équipes, par exemple, comme qui, beaucoup plus stables, avec des joueurs qui sont un peu plus équilibrés à tous les postes, comme par exemple les Portugais, ou alors l'Angleterre qui peut arriver à un summum de sa génération. Voilà. Donc, et puis surtout, je voulais aussi parler du parcours de l'équipe de France, qui est à mon avis un peu compliqué. Vous n'avez pas trop parlé, mais si on regarde un petit peu le tableau, on se rend compte que la France va jouer un second de poule en huitième et un premier de poule en quart de finale, dans le cas où elle finit premier, bien entendu. Contrairement, par exemple, à des Anglais ou à des Portugais, qui croisent avec un troisième de poule s'ils finissent premier, et qui surtout en quart de finale affronteraient le vainqueur d'un huitième composé de deux secondes de poule. Et donc, en fait, pour moi, il y a des équipes qui ont un boulevard devant eux, comme les Anglais ou les Portugais, qui pourraient en fait arriver en demi sans avoir joué entre guillemets un favori.
Ouais, c'est pas faux, mais ça aussi, on peut toujours regarder les tableaux comme tu l'as dit, et tu as raison. Si tu finis premier,
en
toute logique, comme tu le dis, ça peut être un peu plus compliqué que certains premiers d'autres poules. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui la certitude de finir premier de ce groupe-là? Moi, je te dis que non. Les Pays-Bas ont montré aussi beaucoup de qualité. C'est pas sûr qu'on arrive à les devancer sur le groupe, donc il faut peut-être aussi anticiper le fait de finir deuxième de groupe.
Alors, je te rejoins. Alors, peut-être qu'on va faire un match nul contre les Pays-Bas, je ne sais pas, mais sur trois matchs, je pense qu'on est au-dessus des Pays-Bas. Je pense que peut-être les Pays-Bas peuvent faire une contre-performance contre la Pologne ou contre l'Autriche. Je pense vraiment que sur trois matchs, la France finira première.
Tu penses que nous, on ne peut pas faire de faux pas contre l'Autriche ou la Pologne? Moi, je vais te dire, l'Autriche, c'est quand même plus fort que le Canada. On est d'accord là-dessus?
On est d'accord.
Voilà.
On est d'accord, 100% d'accord.
Et le Canada, même s'il n'y avait pas Kylian Mbappé, mais bon, ça peut arriver. Hein. Jean-Louis a dit qu'il avait raté 4 séances d'entraînement depuis le début de la préparation. Donc c'est possible aussi qu'il soit en dedans, comme il l'a été très souvent sur les derniers matchs de l'année. Bah, tu peux te faire aussi accrocher par les Autrichiens.
Hein. C'est possible. Attention à ce problème.
Contre la Pologne.
Contre la Pologne. Match,
oui, voilà.
Bon, la Pologne,
c'est à mon avis. Ouais, mais sur un premier match, tu peux faire 0-0. Hein.
Non, mais le premier match, c'est l'Autriche.
C'est l'Autriche.
C'est l'Autriche lundi, Benjamin.
Mais pardon, l'Autriche.
On peut se mettre dans l'Euro, Benjamin. Là,
attention. Ah, Benjamin, t'as regardé les tableaux et tu nous confonds l'Autriche et la Pologne. Merde.
Allez, Benjamin, bon Euro sur RMC.
Merci, Benjamin. À bientôt.
Quand tu veux, au 32-16, dans une seconde. Clément Turpin sera l'arbitre du match d'ouverture. Quel honneur pour l'arbitrage français.
Il est sur le banc des accusés.
Exactement, c'est toi qui es sûrement des accusés.
Ah, je crois que
t'as été injuste avec Clément Turpin.
Injuste ?
Oui, Stéphane Lannoy va t'expliquer.
Attends, il a les bonnes lunettes, Steph.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC. Oui, vous êtes bien dans Rotten sans flamme. Oui, on lance l'Euro qui commence ce soir en Allemagne avec cette Allemagne-Écosse. On est là, oui.
Musique de Papa Schulz.
Papa Schulz, c'est
bien sûr.
Rappelle les souvenirs, Jean-Michel. Hein. On est avec Jean-Michel Larquet, il est là. Éric Roy avec Jean-Louis Tour dans 15 minutes. Ça sera
Julien Cazard
pour se détendre.
Bien sûr.
En direct d'Allemagne. Hein.
Exactement. Parce qu'on envoie vraiment tous nos meilleurs reporters en Allemagne. C'est comme ça sur RMC.
Bourré. Hein, parce que là, en Allemagne.
Vite, l'homme de la soirée, Jérôme, pour le lancement de l'Euro est français.
RMC, Rotten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu as dit? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé.
Wow. Ce soir, pour l'ouverture de l'Euro, Allemagne-Écosse, Clément Turpin sera donc au sifflet. Et l'accusé du soir, c'est toi, Jérôme, qui n'a fait que critiquer Clément Turpin tout au long de la saison.
Bon.
Et oui, alors qu'il est reconnu à l'international, arbitre de grands matchs de Ligue des Champions, arbitre du match d'ouverture, sélectionné pour l'Euro. Alors, on va laisser Éric Roy trancher le débat, Jean-Michel Larquet, on verra comment il se positionne, mais celui qui va t'accuser, Jérôme, c'est notre arbitre radio qui nous rejoint tout au long de l'Euro, l'ancien patron des arbitres professionnels, Stéphane Lannoy est avec nous. Salut Stéphane.
Bonsoir, salut Stéphane. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir Eric et bonsoir Jean-Michel.
Ça va Steph?
Ça va très très bien, merci.
Bon,
ça nous fait plaisir d'entendre un arbitre ou un ancien arbitre, hein, parce que dans l'année c'est dur, hein, dans Rotten sans flamme.
Ah là là.
Bon. J'imagine. Ouais.
Bon, on a eu Monsieur Borghini, non? C'était pas un ancien arbitre, Monsieur Borghini?
Ah non. Joker.
Dans les années 20, non?
Peut-être. On sait recevoir. Peut-être. Alors, Stéphane, il faut que tu arrives à convaincre Jérôme pourquoi il est injuste à ce
pourquoi
point avec Clément Turpin. Pourquoi les autres se rendent compte de son talent et pas Jérôme?
Ouais.
Bah, moi, je vais rester, Jean-Louis, tout simplement sur du factuel, en fait. Parce que les stats, les chiffres, le palmarès de Clément Turpin parle pour lui. Vous vous doutez bien que l'UEFA ne met pas des noms dans un chapeau et décide d'un tirage au sort complètement aléatoire, celui qui arbitrera le match d'ouverture qui lance un championnat d'Europe. Donc, partant du principe qu'il désigne Clément Turpin, c'est qu'il y a un capital confiance de l'UEFA et de la commission d'arbitrage envers l'équipe Clément Turpin. Voilà, factuellement, Clément, c'est son troisième championnat d'Europe. Il est au niveau international au sommet de son art. Il a 42 ans, 2 Coupes du Monde, 3 championnats d'Europe, une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League. Et ce soir, eh ben, on lui donne la possibilité de lancer le championnat d'Europe sur de bonnes bases. Donc voilà, ces stats parlent pour lui.
Et voilà, Jérôme, t'as compris?
Ah ben j'ai rien à dire là-dessus, hein, Stéphane.
Comment il peut avoir de telles stats
bien mieux,
et toi un
bien
jugement mieux. Aussi terrible sur son niveau.
En fait, je vais te dire,
comment
Stéphane,
il peut avoir autant d'écart? Moi, j'arrive pas à comprendre.
Non, mais Stéphane, je vais te dire, c'est très simple pour te répondre. Moi, je parle pas du palmarès et tu as raison de le mettre en avant parce que le palmarès fait de lui aujourd'hui l'arbitre numéro un pour arbitrer le match d'ouverture.
S'il était si nul, Jérôme, il arbitrerait pas.
Non, mais attention, moi, quand je parle de nullité, je parle de fait. Alors, comme tu l'as dit, dit, toi tu as pris des exemples dans sa carrière et tu as raison. T'arbitres pas autant de finales, autant d'euros comme ça de suite et des coupes du monde sans avoir du talent. J'ai jamais dit que Clément Turpin n'avait pas de talent. Au contraire, moi je l'ai connu au tout début de la carrière, sa carrière d'arbitre, et j'étais encore joueur. Et en effet, j'ai l'impression que c'est pas une impression, c'est qu'il avait pris le relais de votre génération, l'ancienne génération, et qui révolutionnait en quelque sorte parce qu'il était très proche des joueurs. Il y avait beaucoup de communication et j'ai adoré le Clément Turpin des premières années. Le problème, c'est que il a très vite été rattrapé par la patrouille, dans le sens où très vite il a arbitré des matchs internationaux et tu l'as dit, c'est devenu un arbitre reconnu en Europe mais aussi dans le monde entier, et ça tout à son honneur et mérite. Le problème, c'est que nous, quand on retrouve le Clément Turpin en Ligue 1, c'est pas le même Clément Turpin. Et moi, j'ai été dur, en effet, sur lui tout au long de l'année et de l'année dernière aussi, parce que j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est qu'en France, dans les instances de l'arbitrage, et t'en as fait partie, mais le problème, c'est qu'il y a la DTA et il y a le CAF, hein, dirigé par Monsieur Borghini. En fait, il y a des incompréhensions, parce que nous, on voit, quand il y a l'analyse d'un week-end, et on fait l'émission tous les jours, Stéphane, tu vois. Donc le lundi, on fait l'analyse de ce qui se passe le week-end. Et que un lundi par mois, il y a des problèmes d'arbitrage. Et encore, je suis gentil. Un lundi par mois, je suis gentil. Mais on va dire un lundi par mois. Donc ça en fait quasiment 10 dans l'année de Ligue 1 qui dure 10 mois. Et que sur ce lundi-là, les erreurs d'arbitrage ou les polémiques sont souvent liées à l'arbitrage de Clément Turpin. Et à d'autres, je m'en suis pris aussi à Stéphanie Frappard, on m'a dit que je faisais une fixette, mais c'est la réalité. Et que pour moi, ils ont pas la même attitude en Ligue 1, et c'est pour ça que je suis surpris de voir que l'UEFA le place aussi haut, alors qu'en France, c'est même pas le numéro 1. Et le dernier classement le prouve, hein. Le dernier classement, c'est Monsieur Le Texier qui est numéro 1, et qui me paraît assez logique. Mais de voir Clément Turpin sur le podium de ce classement de Ligue 1, je me dis, il est protégé. Et ça, moi, je suis désolé, mais la méritocratie, et ça doit aussi avoir lieu. T'as beau avoir été un très bon il y a quelques années en France, mais t'es rentré dans le rang, et ça, il faut l'accepter. Et je trouve que l'UEFA ne l'accepte pas. C'est pour ça, je trouve que c'est un peu dégueulasse de le mettre aussi en avant. Après, je lui souhaite, et je suis persuadé, je te donne la parole, Stéphane, que ce soir, à l'image de ce qu'il a fait cette année en Ligue des Champions, et le dernier match de Ligue des Champions le prouve, il fasse un très bon arbitrage.
Bah, je lui souhaite, et à son équipe, parce que lancer un championnat d'Europe, c'est pas une mince responsabilité, hein. Donc il a obligation de résultat avec son équipe ce soir, donc il a évidemment une pression importante sur les épaules, mais il sait faire face à la pression, donc ça va bien se passer.
Et quand Jérôme dit qu'il est protégé au niveau national,
mais c'est parce que en fait Jean-Louis, on compare deux choses différentes, c'est-à-dire que être régulier et être performant tout au long d'une saison sur 34 journées de championnat, c'est comme les joueurs, c'est extrêmement compliqué. Il y a des moments où on est moins juste techniquement, il y a des moments où on est au rendez-vous. Il est souvent au rendez-vous quand ce sont des grosses affiches. Alors je suis pas en train de dire que il prend les autres matchs par-dessus la jambe, c'est pas ça, mais être régulier sur 34 journées de championnat, vous avouerez que c'est quand même très compliqué.
Et Stéphane,
et sur des compétitions internationales, ben c'est quelques matchs de Ligue des Champions sur une saison, quelques matchs d'Europa League sur une saison, et il est complètement dans son élément à ce moment-là. Donc peut-être souffre-t-il d'un manque de régularité dans ses performances en France. Pour autant, ça reste franchement.
Non, mais Stéphane.
Ah non, mais c'est le tour de Jean-Michel. Là.
Stéphane, je laisse parler Jean-Michel, mais Steph, t'es libre maintenant, donc tu peux dire qu'il a le boulard et qu'en France aujourd'hui, il a pas la bonne attitude. Et je te dis, c'est même pas moi qui le dis. Nous, on le constate, on le voit parce qu'on analyse, mais c'est les joueurs eux-mêmes. J'ai eu combien de retours de joueurs qui l'ont connu avant et qui le connaissent aujourd'hui, et ils disent, on peut plus lui parler. Et c'est quand même problématique, ça.
Ben, alors ça, c'est quelque chose pour lequel je me suis battu tout au long de mes activités à la direction de l'arbitrage. Parce que pour moi, le vrai challenge qu'ont les arbitres, c'est d'être au service du football et d'être dans l'échange et dans la proximité avec les joueurs. Or, on leur a biberonné pendant des années et pendant des années qu'un arbitre était là pour faire preuve d'autorité. Mais pardon, faire preuve d'autorité, ça n'est pas être dans l'autoritarisme, ça n'est pas avoir des postures arrogantes ou condescendantes, c'est d'être dans l'échange. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je l'ai vécu en tant qu'arbitre. Quand on est en capacité sur un terrain de dire à un joueur, pardon, je me suis trompé.
Eh oui.
Voilà. Plutôt que d'avoir une attitude qui frise pour certains parfois l'arrogance ou la condescendance, mm-hmm. à ne pas reconnaître qu'on s'est trompé. Mais voyons, on est humain, on fait des erreurs.
Bien sûr.
On doit être en capacité de le reconnaître. Mm-hmm. Voilà. Et il y a peut-être une différence à ce niveau-là, Jérôme.
Ouais, Jean-Michel.
Écoute, moi, je regarde avec attention. Et puis, Monsieur Turpin, c'est pas sa première saison. Moi, le paradoxe, Stéphane, c'est que le paradoxe. Et je vais parler à la place de Rick parce que j'ai suivi moi les aventures du Stade Brestois cette année. Et il y a eu une période qui date du mois de, je sais pas si ça devait être janvier, février, où il y avait un match à Monaco, notamment là, dans trois ou quatre matchs.
C'était un petit peu avant Jean-Michel. C'était au mois de novembre, je m'en rappelle très bien parce que je suis allé rendre visite au staff du Stade Brestois au mois de décembre.
Ou quand même sur le mois, ils ont dû avaler quelques couleuvres. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que Turpin, à la limite, je ne sais pas s'il est bon, s'il est très bon, je trouve qu'il a beaucoup changé, peut-être pas dans sa qualité d'arbitrage, mais qu'il a beaucoup changé dans son attitude dans l'Hexagone. Beaucoup changé, et qu'il est nommé ou qu'il est désigné pour arbitrer le match d'ouverture, alors que, objectivement, Stéphane, il n'a pas fait une bonne saison. Objectivement, par rapport à ce qu'il a fait, il n'a pas fait une bonne saison. Stéphane, ça m'interpelle. Je suis quand même. Je pense qu'on ne peut pas sélectionner un joueur si tout au long de la saison, il a été moyen. Bien qu'auparavant il ait été très bon, ça m'interpelle. Alors je ne sais pas si c'est la faute de Turpin ou si c'est la faute de l'UEFA qui l'a désigné. Je pense que c'est l'UEFA qui l'a désigné, mais je m'interpelle sur ce genre de sélection. Et
on n'a pas le temps de s'interpeller plus là.
Pour autant, Jean-Michel, vous reconnaîtrez quand même aisément qu'il a fait une très très belle campagne européenne.
Oh que oui.
Il y a rien à redire sur sa demi-finale de Ligue des Champions. Rien.
Non.
Et du coup, il y avait
même trop de différences, Stéphane, entre ce qu'il fait en France et ce qu'il fait en Europe. Ça, je m'interpelle à nouveau.
Oui, d'accord.
Je m'interpelle à nouveau.
Allez, merci Stéphane. On aura plaisir à te retrouver à chaque débat autour de l'arbitrage, à commencer par ce soir. Tu seras d'ailleurs dans l'after live après 20h pour présenter les nouveautés autour de cet euro.
Eric était malade, là, il avait une exception.
Eric revient dans quelques secondes, Jean-Michel, t'inquiète pas. Le cas a enchaîné dans une seconde, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien. Non, on finit la première heure de Rotten sans flamme et on lance l'Euro qui débute ce soir, l'Euro en Allemagne, avec cette Allemagne-Écosse alléchant. Oui, ça va être belle affiche.
C'est la musique de l'Euro, ça ?
La musique de l'Euro, ouais.
Faut s'y faire, c'est pas mal.
Faut s'y faire, je sais pas si on va s'y faire. En tout cas, on est avec Éric Roy, on est avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Et là, ça va être le monde, Julien Cazard, Jean.
Exactement, et on reviendra sur l'Euro 2004, le dernier Euro symbolique de la Dream Team. Ah, c'est à 19h. La masterclass de Jérôme.
Le plus bel Euro.
C'est tout à l'heure.
Allez, quelle organisation, c'était génial.
C'est Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Bonsoir à toutes Julien. Et à tous. Nous sommes vendredi 14 juin et ça y est, l'euro est lancé. Il était temps parce que depuis le temps qu'on en parle, on n'en pouvait plus. Et surtout, ce qui est formidable, Jérôme, je voudrais te féliciter, puisque on a récupéré peut-être la plus grande star de la Ligue 1 de l'année dernière, qui sera sûrement la plus grande star de la Ligue 1 l'année prochaine. Non, ça n'est pas Luis Enrique, c'est Roy Enrique. Évidemment, je parle évidemment du seul Eric qu'on pouvait recruter, pas Eric Dimeco, mais je dis Eric Roy, bravo Eric, bravo, bravo, bravo.
Merci Julien.
Voilà, non, je suis content de. Et on a rêvé de t'avoir, surtout Jérôme qui a insisté, parce que Jérôme, c'est quelqu'un qui depuis le début te défend, mais leur bec est en contre tous les autres.
Bah, beaucoup encouragé.
Est-ce qu'on peut écouter là vraiment, Jérôme va trouver que c'était vraiment
Le grand entraîneur, Eric Roy, s'il termine la fin de saison deuxième de Ligue.
Pas du tout.
Mais s'ils font deuxième.
Pas du tout, mais ça peut être un feu de paille. Mais excuse-moi d'avoir des catégories et des caps à passer. Eric, on va peut-être attendre avant de dire que c'est un grand entraîneur. Un grand entraîneur, c'est pas en entraînant Brest que tu dis que t'es un grand entraîneur. Je pense qu'avec sa façon de voir les choses, il aura du mal à passer le cap des bons entraîneurs. Et puis après, il est aussi rattrapé par l'âge. Hein.
Eh oui.
Il y a tout prêt.
Ouais, mais là, c'est un montage.
C'est terrible. C'est terrible. Allô.
Non mais là c'est un montage, Jérôme.
C'était pour son bien, Eric. C'est la remise en question, la
preuve. C'est l'exigence. Bah oui.
Eh oui. Après, t'es obligé calculer, t'es obligé d'en parler en bien. Eh oui.
En même temps, alors Eric,
il sent le foot, Jérôme, en fait.
Est-ce qu'on va inviter Eric Roy vu ce qu'a dit Jérôme? Mais le problème, c'est que si on prend personne dont Jérôme a dit du mal, on a personne. Oh. On va dire que t'es celui qui s'en sort le mieux.
Hein. Oh non.
T'es un peu the king, d'ailleurs. Alors, il n'y a pas que Jérôme qui dit du bien de toi, il y en a qui disent vraiment du bien de toi, c'est les Brestois, et quand même, faut quand même reconnaître que t'es le seul entraîneur de toute la Ligue 1, peut-être avec les Régis Lebris, qui a une chanson de la part de Thibaut Leplat, mais tu es le seul qui a une chanson à sa gloire, et c'est pas n'importe quelle chanson on écoute.
Je crois que c'était ça le problème de Jérôme, c'est qu'il a jamais eu de chanson.
Hein. Ah, c'est beau. C'est
alors, Eric, c'est il beau, a eu des bravo, chansons, bravo. J'en étais, mais on va pas les passer à l'antenne. C'était sa période Paris Saint-Germain, malheureusement, les chansons sur Jérôme, elles sont pas passables.
Ouais, t'étais à Rodez, toi, pourtant.
Non, mais écoute, arrête de parler de Rodez.
Non, mais je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit.
N'empêche qu'alors, maintenant, tout le monde t'appelle Eric the King. Alors que nous, on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul King qui s'appelle Eric the King, évidemment. Et lui, personne n'a chanté pour lui parce qu'il a ses propres chansons. Et n'oubliez pas qu'il faut quand même se remémorer de ses belles chansons d'Eric the King, le vrai.
Le vrai Cantona.
Ah bien, Eric. Ah bien, criminal. Ah bien, Angel.
C'est merci, c'est bon, ça ira. Je veux juste que tu te promettes, Eric, que même que tu deviens Eric the King, ne chante jamais
non.
de chansons.
Non, je te rassure. Merci. Je chanterai jamais, non. Il n'y a aucun souci pour
moi. Non, tu restes, reste un médiocre entraîneur de Brest, comme dit Jérôme, exactement. Ça sera déjà formidable.
Et oui. Je souhaite rester médiocre jusqu'à la fin de ma carrière d'entraîneur.
Oh, non, mais c'est bien. Tu arrives à mettre au firmament la médiocrité, c'est rare. Et ça, c'est beau. Je propose qu'on passe tout de suite
concept,
au casard d'or.
C'est un nouveau concept.
RMC, Rotten sans flamme, les casards d'or.
Le troisième sur le podium du casard d'or du patriotisme, c'est Manu Petit. Manu Petit qui a dialogué avec un auditeur. Et ce qui est bien, c'est que c'est ça RMC, c'est d'abord de l'échange et dans la bienveillance.
Mais de quoi tu me parles, tu français? Tu es patriote que moi, toi? Moi, je suis patriote, je représente mon pays à ma entreprise. Manu, tu l'as fait, toi? Eh ben, n'y va pas, toi, déjà. Tu vois, ça sera bien. C'est ça. T'as ton avis, j'ai le mien. Tu le respectes, je te respecte, d'accord? Tu veux m'attaquer, je vais t'attaquer. Mais attention, les mots qu'on peut à toi. Viens ici.
Et comment on peut faire mieux que ça?
J'ai juste prévenir que
c'est que le numéro 3
aux auditeurs.
Mais non.
Je veux que tu saches que c'est comme ça qu'on parle aux auditeurs, Eric. Faut vraiment pas se laisser faire. Après, lui, il est pas médiocre, il est champion du monde. Mais dis-toi que toi, malgré ton statut d'entraîneur de Brest, tu as le droit. Le deuxième, c'est Steve Savidan. Alors, on baisse d'un cran, hein, on va pas se mentir. En termes de palmarès. Sauf que lui. Non, mais Steve, attention. Mumbanya, on a vu ce que ça a donné à Marseille. Il y en a qu'un qui avait tout vu avant tout le monde. C'est Steve Savidan.
Tu as vu les vidéos là de Faris Mumbanya? Je le connais un peu, ce gamin. Quand tu es numéro 9, c'est vraiment un poste que je connais.
Oui, c'est pour ça que c'est intéressant.
Ça se voit. Ça se voit que c'est un gamin, c'est un joueur qui est fait de surface. Je ne savais pas, le mangeur d'espace que c'est et le tank.
Alors, moi je pense qu'il mange beaucoup plus de kebab et de cheeseburger que d'espace. Mais après, peut-être qu'il a mangé une Renault Espace. Ça, c'est possible. Je pense que Mumbanya a mangé une Renault Espace. C'est tout ce que je peux comprendre dans cette phrase. Sinon, évidemment, le casard d'or, C'est quelqu'un qui sait parler d'analyse politique. Et les analyses politiques chez nous, c'est qui? C'est Pascal Olmeta.
Ah,
c'est très poignant. Écoutez, ça fout les frissons.
Bon, les amis, merci à mes parents. Ils m'ont tout donné. Le football m'a tout donné. Les vestiaires m'ont tout apporté. Le respect, aujourd'hui, il y est toujours dans les vestiaires. Aujourd'hui, mon message personnel, c'est que tout ce qui est politique, tout ce qui est autre, putain, mais carrez-vous-le dans le cul.
Merci Pascal. Ça aurait été dommage de ne pas finir là-dessus. C'est dommage que ça partait bien. On avait limite la larme à l'œil. Et puis, bon, c'est Pascal, quoi. Et puis, je voudrais finir avec
en
un
plus,
hommage.
Avec c'est la dernière case
enchaînée de l'année. Un hommage à Jérôme, qui lui, c'est un grand, grand consultant. Et il nous l'a prouvé chaque jour, notamment par son élocution. À toi, Jérôme.
Mais bien sûr qu'on peut le jeter en peinture. Qui était confronté à eux, l'a pas entendu parler comme ça. Donc déjà, il y a jurisprudence là.
Plus de matchs de championnat, la Ligue 1 est terminée. Mais tout ça, oui. On attend d'avoir l'avis de Rotten sans flamme. On attend d'avoir l'avis. On est bien accompagné, bien sûr. On est avec notre champion d'Europe. C'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Toute génération confondue. Donc si c'est le cas. Et qu'ils sont dans la continuité, qu'ils ont envie de faire bonne figuration en Coupe d'Europe.
Clément Turpin est bien meilleur en Ligue des Champions d'ailleurs.
Oui, comme bizarrement. Manque de bol pour ces deux-là et pour d'autres, c'est qu'on a malheureusement dans les matchs en jeu où il y a une grosse pression, eh ben on voit les limites de tous ces arbitres.
Comme moi qui suis la Rolls des
consultants.
On pourra jamais faire mieux. Voilà.
Bravo.
Toi alors, il y en a un, c'est Simply the Best, l'autre c'est Simply the Brest. Ils devraient bien s'entendre. Allez, à plus tard les
copains. Merci Julien, à plus tard.
Le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Et merci Eric, on te retrouvera très vite tout au long de cette Euro.
Jean-Louis, merci. Hein, ça fait plaisir de voir un Floridèche comme ça d'expertise et de bonbons.
Et on est sur RMC.
Je suis
quand
très
même,
heureux de participer à ce genre d'émission.
On fait de la radio tous les jours, c'est qu'on sait tous bien s'exprimer.
Bien sûr. Merci Eric, bravo.
Avec plaisir.
Bravo pour ton bientôt. Année, bravo.
Dans une seconde, on continue de lancer l'Euro. On sera à Munich avec nos envoyés spéciaux. À 2h maintenant du coup d'envoi d'Allemagne-Écosse sur RMC, les 51 rencontres en intégralité. Et puis on va se rappeler l'Euro 2004 dans une seconde. Jérôme, cette élimination contre la Grèce terrible, Zidane qui vomit et qui marque un coup franc dans la foulée, Steve Marley qui se blesse avec son accréditation. Il sera avec nous en direct pour nous raconter tout ça. À tout de suite.
RMC 18h-20h,
Rotten sans flamme, Euro 2024.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC, on est là, on est bien. On lance l'Euro en Allemagne qui débute ce soir. Eh bien, on continue l'émission fantastique, émission Rotten sans flamme tout au long de l'Euro. On sera là du lundi au vendredi, on ne change rien. Rotten sans flamme à l'Euro, on va se régaler en espérant que l'équipe de France nous régale. On a un changement dans l'équipe aujourd'hui. Oui. Changement dans l'équipe. Oui, on change à mi-temps, ça peut arriver. On est avec Jean-Louis Tour, lui il reste là, hein, bien en position. Le dinosaure Jean-Michel Larquet, pareil. Et on accueille Tony Vérel. Salut Tony.
Salut les amis. Ça va
Tony?
Bien. Et oui, et vous?
Bah écoute, nickel. On est content de t'accueillir.
Mais oui, c'est gentil, plaisir. Pareillement. Ouais, comme non, quoi, des fois, hein, sur un malentendu.
Bah ouais, quand ça donne pas satisfaction, on est obligé d'appeler
c'est
les.
C'est ça.
Les valeurs sûres. Eric Croix, qui était là en première heure, qui est notre recrue pour l'Euro, a donné satisfaction.
C'est vrai.
T'expliques pour les gens qui arrivent.
C'est vrai. Non, parce que technique. Vous allez vous en servir encore avec ce que j'ai dit là. Oh là là.
Cocorico?
Cocorico?
C'est le moment, si vous avez envie d'aller à l'Euro, pas juste d'écouter l'Euro sur RMC, d'aller au match. Mais RMC vous permet d'aller assister à France-Pologne. Le match du 25 juin prochain, vos deux places, le déplacement à Dortmund, vol, hôtel, la rencontre avec les équipes, c'est maintenant que ça se joue. 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 732-16. 5 minutes pour aller voir jouer les Bleus à l'Euro, c'est maintenant que ça se joue. Allez-y donc pour envoyer votre SMS. Dans cette deuxième heure, on continue de lancer donc l'Euro sur RMC. Dans 2 heures, ce sera parti. Les premières passes, les premiers tirs, le premier match, c'est Allemagne-Écosse. On sera avec Jeannot Rességui à 19h30 pour lancer cette rencontre. Et puis, on va débattre autour de Dezerbi. On a évoqué cette actu hier. Le futur coach de l'OM, très probablement, peut-il faire des miracles avec un effectif limité? 32-16, montez sur le ring des supporters pour débattre avec nous. Le quiz sera là à 19h45 avec à gagner cette semaine une enceinte portable de Lexon. Vous envoyez top au 732-16. 32-16 pour vous inscrire. Mais tout de suite, comme depuis le début de la semaine, on se remémore les euros marquants et là on ferme les yeux. On est en 2004.
Les Bleus rentrent à la maison, la défaite est cuisante, les tricolores ne font plus rêver.
Arthez, fou de rage. Devant lui, en première mi-temps, les Bleus font pâle figure. C'est trop peu. Les Français sont à la peine, mais le pire est à venir. Les Grecs sont accrocheurs et font même parfois preuve de génie. Zagorakis grille Lizarazu. Le but de Karisteas envoie la Grèce en demi-finale.
Les gens ont la mémoire courte. Les matchs à l'Euro, on aurait pu les perdre. En 2000, on les a gagnés. Là, c'est un match, à mon avis, qu'on doit gagner et on a perdu.
Ce n'est pas non plus une surprise de voir que déjà en 2002 et là en 2004, que la majorité des grandes équipes dont l'effectif est composé de ces joueurs n'arrivent pas à imposer leur qualité et à aller loin dans ce genre de compétition.
RMC, Rotten sans flamme, un euro symbolique, l'Euro 2004.
Et oui, parce qu'on raconte toutes les histoires du foot français dans l'euro symbolique. C'est la Dream Team qui nous raconte les euros marquants pour le foot français. On a fait l'euro 96, l'euro 92, l'euro 84, l'euro 2000. Vous pouvez podcaster tout ça, bien sûr. Et aujourd'hui, l'euro 2004, celui auquel tu as participé, Jérôme. Auquel a participé aussi, enfin du moins, il était dans le groupe. C'est une histoire aussi un peu improbable. Steve Marley qui est avec nous en direct, Jérôme.
Salut Steve.
Salut Jérôme, bonsoir à tous.
Ça va Steve?
Oui, ça va, merci.
En grande forme, bravo pour la saison fantastique au Red Star.
Merci beaucoup, voilà. Attends. On t'attend.
Tu fais que de monter Steve, c'est incroyable, bientôt en Ligue 1. Hein.
Ouais, bah, on a du chemin encore.
Ouais, c'est vrai. Bon. Alors, bon, merci d'être là en tout cas.
On va se replonger dans 2004, est-ce qu'on commencerait pas par l'histoire de Steve? Quand même, après on parlera des matchs, etc., tout ce qui s'est passé. Mais
ah oui, c'est
malheureusement, c'est l'histoire en plus qu'on raconte souvent sur les blessures les plus stupides dans le monde du foot. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette accréditation, Steve?
Bah écoute, on rentrait d'un déplacement, je sais plus où on était, parce qu'on faisait tout en bus. J'étais un peu énervé parce que j'avais passé mon match. D'ailleurs, quasiment tout mon euro a m'échauffé.
Ouais. Ouais, tu sais que t'as été le mieux noté sur les échauffements.
Hein. Oui. Avec toi, Jérôme.
Eh ben oui, c'est pour ça. Non, voilà. C'est pour ça qu'on peut rigoler tous les deux.
Bon, ça nous a permis de suivre l'euro d'un autre point de vue. Mais du coup, on rentre tard. J'ai plus les super tard. Moi, je suis un peu énervé. En fait, j'avais mon accréditation par-dessus, mes blousons par-dessus tout, quoi, parce que. Il fallait les mettre, et donc je retire mon accréditation un peu énervé, et j'ai le coin qui rentre dans mon œil. Donc je me dis, je trouvais la blessure idiote, donc je me dis, bon, ça va passer, je vais pas saouler le doc à 2 heures du matin, parce que je crois qu'il était très tard. Et finalement, le lendemain matin, j'ai un œil, j'ai l'impression d'avoir un bac à sable dans l'œil. Et ça fait un peu ma légende sur cette compétition, c'est que derrière, j'étais out.
C'est la cornée qui est touchée, hein, c'est ça, hein.
Ouais, c'est ça.
Et donc out pour toute la compétition, mais tu restes quand même, hein.
Oui, c'est ça. Je suis resté diminué, mais...
Bon.
J'ai vu la compétition d'un œil, on peut dire.
Oui, c'est ça. Oui, t'as gardé un œil sur la compète. Très bien.
Comme Francis Lalanne, tu voulais copier Francis Lalanne avec le truc du pirate.
Bon, alors allons-y, puisque donc vous avez été tous les deux.
Ouais, Steve, non, mais après, je me posais la question pourquoi il t'avait jamais fait jouer. Mais en fait, voilà, maintenant je le sais, je le savais pas à l'intérieur du groupe.
Chercher l'excuse.
En tout cas,
non. Le problème, c'est que toi, Jérôme, t'avais été dessus.
Oui, alors, non, mais moi, je vais te dire pour expliquer un peu plus. Alors, oui. On a vécu à peu près la même chose avec Steve, sauf que moi, la différence, c'est que c'est vrai que j'ai joué, je suis rentré le dernier match.
Oui.
Mais avant ce dernier match, il y a quand même une compète. Qui se déroule, et en effet, comme disait Steve, on était dans un endroit près de Porto, on était très bien, ouais. Santo Tirso, je crois que ça s'appelait, et on faisait tous les déplacements en bus. Oui, on faisait tous les déplacements en bus. On a joué à Lisbonne, on a joué à Porto, on a joué à côté aussi dans d'autres stades.
Mais alors, attends, Jérôme, j'aime bien poser aussi le contexte. Ouais. À ce moment-là, on est 2 ans après le naufrage de 2002, ouais. Élimination au premier tour, gros crash, et on a l'impression que tout va bien dans cette équipe.
Ah bah oui.
Vous gagnez tous les matchs de prépa.
Et large.
Hein. Alors, oui, large. Bon, après, le groupe, c'était Slovénie, Israël, Chypre et Malte.
Oui, mais non.
Les matchs de prépa, tu les faisais, Jérôme? Tu les matchs de prépa?
Bah, demande à Jacques Santini, ton ami, parce que je sais pas. Voilà. Tu vois,
donc, c'est Jacques Santini, le sélectionneur.
Ouais.
Et dans le groupe, donc, nous avons, comme d'habitude, c'est Euro à 16 équipes, donc c'est un groupe relevé, Angleterre, Croatie et Suisse. Mm. Donc. Et c'est la grosse équipe de France. Hein, Henri Trezeguet devant, Zidane, ouais. Pires, Vieira, Makelele, Thuram, Barthez.
Ça bouge pas. Et puis de toute façon, même s'ils
avec
étaient
des
pas...
Vieillissants, quand même. Ouais. Il y avait des cadres vieillissants.
Oui. Non mais Steve a raison, les cadres vieillissants, il y a quand même la nouvelle génération qui pousse, il y a des mecs qui ont fait des très bonnes saisons. Je parle de Sidney Govou, je parle de Steve avec l'Olympique de Marseille.
Oui, c'est après la saison où vous faites donc finale du FA l'OM, et oui, Steve et toi finale
et
de Ligue
nous,
des Champions.
Finale de Ligue des Champions. Alors je te dis pas que je méritais de jouer à la place de comme Steve à la place de Titi Henry ou de David Trezeguet devant, mais tu peux jouer un peu aussi quand les mecs répondent pas présents. Nous au milieu c'est la même chose, derrière c'est pareil, quoi que derrière des fois il mettait Mika Sylvestre à la place de Lizarazu, il l'a fait sur un match, mais n'empêche que Jacques Santini, où je trouve qu'il a perdu pied, c'est que il nous tenait un discours. Alors je sais pas Steve si toi il t'avait parlé personnellement aussi, il aimait bien ces petites discussions perso,
donc, toi,
mais
en
fait
dit quoi,
mais en fait ça se reflétait pas sur ce qu'il voulait mettre en place. Du moins t'imagines quand même,
toi,
que le
dit que tu joueras
le dernier
Zidane.
Non mais je vais te dire, le dernier match de préparation, je sais pas si
c'est pas le plus grand communicant hein.
Ah non non, mais je te confirme, mais moi je vais vous expliquer
à Lyon, Tony.
Je vais vous expliquer une anecdote.
Oui, alors,
le dernier anecdote. Match avant de partir au Portugal, on joue au Stade de France contre l'Ukraine, il me semble.
Oui.
On gagne 1-0, un but de Zizou à la dernière seconde. D'accord, on gagne 1-0. À la mi-temps de ce match, on est moi je sors donc à la finale avec des champions.
Oui.
On revient, moi je suis arrivé un peu en retard au rassemblement parce qu'il y avait les festivités à faire à Monaco et peu importe.
Ouais.
Et donc le dernier match, on le prépare contre l'Ukraine et Jacques Santini la veille me dit, écoute, on va faire deux formules. La première, c'est l'équipe type de ce que t'as donné,
4-4-2.
Un 4-4-2 classique. Et après, je vais t'incorporer dans un milieu à 3 où toi tu seras le troisième à gauche et je mettrai Zizou. Zidane 10. En 10 et avec deux attaquants.
Henri Trezeguet
devant. OK, et on testera ça contre l'Ukraine déjà. OK, pas de problème. À la mi-temps, qu'est-ce qui se passe ? 10 minutes avant la fin de la première mi-temps, contre l'Ukraine, en plus, ça se passait pas très bien, on faisait pas un bon match. Je vais m'échauffer.
Oui.
Donc classique, je m'échauffe toute la mi-temps. Et là, Pierre Mankowski, le grand adjoint de Jacques Santini, qui vient me voir, il me dit, bon, écoute, continue de t'échauffer un peu.
Échauffe-toi un peu.
Et continue de t'échauffer un peu, 10 minutes et on rentre. OK, bon bah on le joue
40. Il restait 10 minutes, il restait 5 minutes à jouer.
Attends. Ben je pense tu le connais mieux que moi Jean-Michel, le temps qu'il tourne la tête, ça a dû mettre un quart d'heure de voir que je m'échauffais encore. Bah là, il restait plus qu'un quart d'heure à jouer.
Ah. Et bon, t'es rentré quand même, vous
l'avez et là, au bout d'un quart d'heure, je dis mais il se fout de ma gueule. Ah, non mais j'ai passé mon temps 10 minutes, ça faisait 45 minutes que je m'échauffais. Bon, je dis attends, donc je retourne sur le banc et là il me voit passer, il me regarde avec un petit sourire. Voilà, je m'assois et puis le match se déroule.
Bah t'es là.
On finit le match, donc on gagne à la dernière seconde 1-0. Bon, bah je dis il va venir me parler quand même, tu vois, pour m'expliquer pourquoi il a pas fait ça,
non.
Rien. Il m'a plus jamais parlé de la compétition. On est arrivé au Portugal. On était les coiffeurs à s'entraîner.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ah ouais, les beaux coiffeurs, on faisait des belles séances, hein. Tu te souviens les séances physiques là qui nous faisaient faire le lendemain, on jouait.
Il y avait des matchs amicaux contre des équipes locales comme ça,
Ouais, on jouait contre les charcutiers de je sais plus qui, les pompiers de trucs, et il était content en fait, il était content, et puis vu qu'on gagnait parce qu'on jouait contre des mecs qui faisaient 100 kilos, ah ben bien sûr qu'on gagnait les matchs, hein, tu vois. Donc il était content, à chaque fois il dira ah, vous jouez le jeu, ça c'est bien. Et le problème c'est que bah on a regardé les autres à jouer toute la compétition.
Le problème c'est qu'il voulait pas toucher aux champions du monde. C'est ça en fait l'histoire, aux joueurs qui avaient trop de statut, Steve.
Bon, il y avait un peu de ça et il voulait se rassurer parce que bah il voulait à mon avis pas revivre l'échec de Roger Lemaire 2 ans auparavant. Donc je pense qu'il voulait se rassurer avec les cadres, mais comme je disais tout à l'heure, les cadres étaient plutôt vieillissants. Et puis au cours de la compétition, je pense qu'il avait peut-être aussi prévu que contre la Croatie on se serait qualifié, en tout cas on aurait peut-être gagné le match, il aurait fait tourner contre la Suisse, ça n'a pas été le cas. Du coup il y a eu très peu de mouvements à l'intérieur du 11, quoi.
Et c'est ça.
Et tu te souviens de la discussion quand même, parce que là, on parle du match de l'Angleterre qu'on gagne, le premier match, un match historique.
Oui, alors là, ils sont victoires.
Gagnent dans les arrêts de jeu, en plus.
Alors, c'est ça, victoire dans les arrêts de jeu. On est mené 1-0, il y a coup franc de Zidane à la 91e, puis il marque sur pénalty à la 93e, après avoir vomi. Et l'Angleterre, c'est quand même une équipe de dingue à l'époque. Hein. Rooney, Owen, Beckham, Lampard, Gerrard, Scholes. Voilà, c'était là, pour le coup, du vraiment
mais,
très bon.
Mais tu sais, après ce match, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Jérôme, après ce match, dans les vestiaires, on a fêté ça comme si on avait gagné.
C'est vrai.
Moi, je me rappelle, on a chanté, monté sur les tables, machin. Enfin, Et bon, on a
vous êtes en forme, vous étiez en forme.
Ah mais c'est sur les tables. Tellement on est monté sur les tables, on chantait. Jaco, il a dit mais eux ils sont géniaux. C'est des mecs incroyables, ils sont top. Ouais. Ils sont avec le groupe, ils jouent pas, ils s'en foutent. Bah oui. Donc bah je vais continuer à pas les faire jouer.
On va détailler les matchs dans une seconde. Donc on a dit un mot sur l'Angleterre, on va le faire aussi sur la Croatie, la Suisse, l'élimination contre la Grèce.
C'était magnifique.
Et dans une seconde dans l'Euro symbolique.
Ah, nous parler anglais aussi, on va vous raconter ça.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme. Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h15. Oui, on refait l'Euro 2004 avant de lancer l'Euro 2024 dans maintenant un peu moins de 2 heures. France-Écosse. Allemagne-Écosse. On est avec Jean-Michel Larquet. On est avec Tony Vérel. On est avec Jean-Louis Tour et avec notre invité exceptionnel qui a brillé à l'Euro 2004. C'est Steve Marley.
Bon, on va laisser Jacques Santini de côté. Je pense qu'il a été bien rhabillé depuis 19h.
Ah bon ?
En plus, il n'a pas voulu venir.
Ah ben non, j'en ai eu une.
Oh non, on n'a presque rien dit encore. Jean-Louis, j'ai rien dit.
Alors attends, garde ton anecdote, Jérôme. Je crois que Tony veut parler de Jacques Santini. Tu l'as eu à Lyon.
Non, mais tu dis on l'a rhabillé, mais j'ai rien dit, moi, encore.
Vas-y, alors.
Bon, bah, vas-y, alors.
Vas-y.
Non, mais rien. En fait, pour moi, c'est le plus mauvais entraîneur que j'ai jamais eu. Donc, je vais pas commencer à lui dresser un costume. Ça, c'est pas la peine. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on l'a eu avec Steve quand on était à Lyon. Bon, après, avec Steve, ça s'est mieux passé parce qu'il était en pleine forme et qu'il a fait une très belle saison. Mais moi, le courant n'est jamais passé avec lui. Quand il était adjoint, ça se passait très bien. Enfin, parce qu'il prenait peut-être pas de décision. Mais du jour où il est passé entraîneur, ça s'est très très mal passé. Et c'est pour ça que moi je comprends tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de quelqu'un qui communique pas ou qui raconte tout l'inverse de ce qu'il peut dire. Moi, des fois, il me convoquait pour me dire bon, bah, demain on fait comme ça, je vais avoir besoin de toi, surtout sois prêt, prépare-toi parce que demain ça va être hyper important que tu sois là, je vais avoir besoin. Et puis le lendemain, tu joues pas quoi, il te fait pas rentrer du tout. Ouais. Donc et derrière, t'as pas d'explication, t'as rien. C'est les explications qu'il te donne à un moment donné. J'étais même obligé de lui dire un jour dans le vestiaire, j'ai coach Jaco, parce qu'on se tutoyait puisqu'il était adjoint l'année d'avant, enfin pas, il était pas adjoint, il était directeur sportif l'année d'avant. Donc si tu veux, à un moment donné dans les discussions qu'on avait, j'ai dit écoute, dis-moi ce que tu veux me dire, arrête de tourner autour du pot parce que là je comprends rien. En fait il partait dans des discours, tu vas voir, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Donc voilà, après bon. C'est tout.
Ah, ça me rassure.
Jean-Michel, un mot pour sa défense.
Non, je rigole, j'essaye, mais je comprends qu'il n'ait pas voulu venir et il s'évite une soirée compliquée. Il va regarder le match tranquille. Voilà. J'ose espérer qu'il n'est pas sur RMC exceptionnellement. Bon, je l'ai vu ce matin, il était en grande forme.
Oh, c'était loin.
Il m'a dit beaucoup de bien, notamment de Tony.
Ah bon ?
Il a dit que, ouais, mais qu'il le faisait jouer régulièrement.
Exactement. Et de Giro.
Voilà. Non, bon,
alors c'est quoi ton anecdote, Jérôme ?
Non, mais et après on finit de parler de lui, c'est sûr. En fait, il y a au milieu de la compétition, je sais pas si Steve, tu t'en souviens, ben t'es obligé parce que celle-là nous a marqué cette réunion. C'est que quand on fait match nul donc contre la Croatie, le deuxième match, après avoir gagné à l'arrache contre l'Angleterre, on fait 2-2 contre la Croatie
et on fait pas un bon match
alors qu'on mène 1-0, un but contre son compte Tudor, mais on fait vraiment pas un bon match. Et mais les changements, ils faisaient toujours les mêmes de toute façon. C'était Pires pour Wiltord, Wiltord pour Pires. C'était peut-être un attaquant qui sortait de temps en temps, et encore c'était rare,
et
Louis Saha qui rentrait, et puis derrière Michael Silvestre qui avait un peu de temps de jeu aussi parce qu'il jouait à Manchester, et au milieu de terrain c'était Dacour, Makelele, Vieira. Exactement. Tu vois, ça tournait comme ça. Bon, c'était, on les savait avant le match, les changements. Donc là il a pas été très judicieux dans ces changements, et là en fait les cadres qui étaient vieillissants, et là je suis d'accord avec Steve, réunion exceptionnelle avec le staff, donc, et avec Jacques Santini, et les cadres de l'équipe disent, il faut changer quelque chose, parce que même eux sentaient qu'il fallait faire évoluer peut-être tactiquement et tout ça. Et là, je me disais, bon, bah, peut-être, en effet, tu vas changer le rôle dans un 4-4-2 en losange ou un 4-3-3, peu importe. Et là, il fait, bon, je vais réfléchir. Alors, oh, bon, wow. Alors là, nous on dit putain, là ça y est, il va nous inventer un truc toute la nuit, ouais. Ça va être génial. Et il part donc la nuit et le lendemain matin, il reconvoque tout le monde et là, il lève le paperboard et il fait bon bah écoutez, on reste à quatre derrière. On reste avec les deux milieux de terrain, on reste avec les deux attaquants. Bon bah ok, t'as rien changé en fait. Et il dit bah Robert, tu vas passer de droite à gauche et Zizou à droite. Mais après vous pouvez rechanger hein. Ah ok. Bon bah en fait t'as rien changé quoi. Voilà.
Oui.
Génial. Alors, et donc oui c'est vrai que
le changement arrive quand même Jérôme. Il a fallu être patient mais le changement va arriver puisque donc vous passez ensuite contre la Suisse en gagnant 3-1 grâce à un but de Zidane et de Thierry Henry. Ensuite arrive la Grèce. Là, c'est compliqué. Alors, dans quel état d'esprit vous étiez comment était le vestiaire avant de jouer la Grèce? Vous étiez confiant? Vous étiez comment? Parce qu'on savait pas à ce moment-là qu'ils allaient aller au bout de la compétition. Steve.
Bah, écoute, on était excités. Et on s'est dit, malgré tout, on souffre. Mais on a un bon tirage.
Ouais.
On savait pas ce qui allait se passer derrière, malheureusement.
Bien joué.
Oui, on n'était pas inquiets plus que ça. Et on était plutôt même très très confiants en se disant bah, bon la Grèce voilà ça devrait le faire malgré tout toutes les histoires qu'il y a eu avant. Puis je me rappelle il y avait aussi une polémique sur peut-être le positionnement de Zidane, je crois qu'il y avait une discussion comme ça par rapport à son positionnement
qui était à gauche
mais du coup voilà on était plutôt confiants.
Bon bah plutôt confiant.
Ouais non mais c'est vrai qu'on était confiant.
Vous aviez raison.
On avait. Après moi j'avais quand même grillé certains qui des cadres vieillissants tu vois qui se disaient écoute il peut peut-être nous arriver peut-être quelque chose de spécial donc on va peut-être avancer nos vacances parce que on peut peut-être rentrer plus tôt que prévu quoi tu vois.
Ah d'accord.
Donc déjà il y avait de la confiance mais au fond tu te dis bon on dégage pas quand même beaucoup de sérénité.
Et donc, on prend ce but de Charisteas à l'heure de jeu. Et là, 79e minute.
Ah, bah là, c'est révélation.
Enfin, après avoir attendu donc 3 matchs, 4 matchs, le match de prépa, etc. Enfin, Jérôme, tu rentres pour faire la décision.
Je vais te dire.
Enfin, il y a ce milieu en losange, ouais. Non, avec Pires donc, qui sort.
Ouais, je sais pas quel milieu. De toute façon, avec tout ce qu'il m'a dit, les mots qu'il
m'a dit.
Tu
pouvais pas faire un peu mieux.
Non, mais je vais te dire. La première chose, c'est que.
Parce qu'il est pas mal, juste, pardon, il t'avait sorti Trezeguet. Hein. Tu n'avais même pas de joueur de tête.
Ouais, en plus, il m'a fait un cadeau. Mais
je devais rentrer, j'y pense.
Ouais, en plus, tu devais rentrer, ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que, et Steve le sait, c'est que ouais, tellement.
C'était déjà prévu, en fait. Il vous disait qui allait rentrer.
Non, mais on savait tellement qu'il ne voulait pas nous faire rentrer que, en fait, le premier jeu, c'était, tu sais, il y avait 3 rotations dans les échauffements. Et les premiers, en fait, on s'était fait un jeu entre nous. Les premiers qui prennent le chasuble donné par Pierre Mankowski, les 3 premiers, waouh, et on disait waouh, c'est un trophée là, tu vois, ils donnent un trophée. Et ceux qui passent à la 3e rotation, ils sont un peu dans la merde parce que ils verront pas une minute de jeu sur la compète. Et là, c'est vrai que contre toute attente, parce que moi sur les 3 premiers matchs, il m'a pas calculé. Il me file le chasuble en premier. Waouh! Donc moi je pars avec un petit sourire en coin au mec, je dis hey, vous avez vu hein? Oh, c'est moi. Et sauf que je m'échauffe 10 minutes et là il me rappelle et là j'ai l'impression que il parlait au meilleur joueur du monde. Mais franchement, il m'a parlé alors qu'il m'a pas parlé de ce fameux match contre l'Ukraine avant de partir au Portugal. Il m'a pas calculé du tout. Il nous regardait jouer au ping-pong avec Steve, avec Sydney et tout ça, et avec Sylvain.
C'était bon ping-pong.
Oui, ah ben bah non, mais il venait nous regarder.
T'as fait du progrès alors.
Sylvain était bon, je me souviens.
Ah, Sylvain était très bon, mais Jaco, il venait nous voir. Mm-hmm. Et ils nous regardaient, et puis avec un petit sourire en coin, les coiffeurs, ils nous regardaient, à chaque fois, ils disaient, c'est toujours de bonne humeur, ça c'est bien, et puis ils repartaient. Et là, donc, il me tient un discours avant de rentrer contre la Grèce, où t'as l'impression que, oui, il parle au meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du monde, il me dit, Jérôme, c'est toi qui nous qualifie, c'est toi qui va me faire la différence, je te l'ai dit avant la compète, oui, mais tu m'as rien dit depuis, tu vois, donc,
tu me l'as dit.
Et donc, j'ai un quart d'heure avec les arrêts de jeu devant moi pour faire la différence, malheureusement. Thierry Henry avait les pieds palmés ce jour-là, donc.
C'est la faute de Thierry Henry.
Je lui ai mis un ballon incroyable.
Ah bon?
Ah ouais.
T'en rappelles de ça, Steve?
Délivrer un caviar.
Ouais. Sans doute. Si Jérôme le dit, ça
devrait. Ouais. Ah non, nous, c'est si Jérôme le dit, ça doit être.
C'est pas vrai.
Voilà. Non, mais les gars, oui. Avec ce que j'écoutais, vous voulez gagner, avec ce que je viens d'entendre, on peut pas gagner, c'est pas possible.
Ah bah non, mais ça, de toute façon, on le savait qu'on n'avait pas gagné. Ouais, Steve.
Il y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est que Jacques avait annoncé avant la compétition qu'il partirait à Tottenham.
Oui, aussi, oui. C'est vrai qu'il y a eu cette polémique-là. Ouais.
Ouais, et pendant, il prenait des cours d'anglais pendant le stage.
Il vous parlait peut-être anglais.
J'ai écouté ses conférences de presse à Tottenham.
On va pas la repasser pour la millième fois quand même, la conférence de presse de Tottenham. Nous, on n'est pas de ce genre-là.
On n'est pas sûr.
On est en train de la chercher là.
Tony, tu l'as déjà entendu parler en anglais, Jaco?
Non. Bah, c'est peut-être. Non, c'est, il me parlait peut-être déjà en anglais à l'époque. À Lyon.
Ça ressemblait à ça.
Je comprenais rien.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Après, je comprends vraiment pas pourquoi il veut pas venir sur RMC.
Je pense que c'est après qu'il a pris des cours.
Ouais.
Il en avait déjà pris à Lyon.
Voilà. On salue Jacques Contini.
Non, Jacques, on te salue et puis merci de nous avoir amené à l'Euro avec Steve.
Il y a un truc quand même là qui ressort de, après avoir discuté de toutes ces phases finales.
C'est qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe.
Non, là c'était catastrophique, mais l'importance des, quand même des remplaçants et d'être clair avec eux dès le début. Je veux dire, combien de fois on a entendu le groupe vivait bien, le sélectionneur a dit clairement le rôle de chacun et l'importance des joueurs qui jouent pas.
Ouais. Après moi bon. Moi je vais te dire avec le recul et puis peu importe. Mais quand Steve le disait, t'as des cadres vieillissants, des cadres qui ont moins faim parce que c'est comme ça, ils avaient tout gagné. Et c'est le cas. Moi c'est ce que je ressentais. Et l'évolution, elle est terrible entre 2002 et 2004 parce que il y a des bons résultats, mais tu sens qu'il y a.
La plupart de ces cadres, ils sont là deux ans après pour aller en finale
de
Coupe du Monde.
Oui, mais pas tous. Ouais, genre, pas tous. Et il y a une dynamique qui est différente parce que en effet, tu sors de deux compètes compliquées, 2002.
À part Michel Télizarazu, aucun arrête. Hein. Enfin, ils arrêtent et ils reviennent après.
Pires, tu le vois plus. Oui.
Pires, tu le vois plus, mais il joue toujours. Raymond Domenech qui le prend plus.
Oui, mais tu le vois plus.
Il était performant quand même.
Non, mais tu le vois plus en équipe de France.
Ah oui, mais j'avais rien vu. Domenech. Bon, il voyait pas.
Et c'est rajeuni, si tu veux, sur d'autres. Le gardien est différent. Hein, c'est pas. Ah non, Barthez revient. C'est vrai que Barthez revient derrière. Voilà, mais au départ, la campagne, elle est différente parce que ces mecs-là ont arrêté. Il y a une dynamique qui est différente. Et puis après, il y a l'arrivée de joueurs
Zidane,
comme Ribéry, ça qui te donne.
Oui,
mais ça te permet de faire une belle compète.
En tout cas, on est sur un bel enchaînement de sélectionneurs.
Ouais, ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas parlé. Des réceptions dans les petites mairies et ce qu'appréciaient particulièrement M. Simonnet et M. Gérard Hénault.
Ah, Hénault. Ben oui, alors, c'est quoi ça? Le Romanée Conti, là, c'est pas là, c'est pas
ah non, c'est pas le Romanée Conti, ah non, ils avaient pas besoin, non. C'était le Vino Verde, là.
Alors, c'était une belle époque pour la Fédé, que ce soit à la direction, au poste de sélectionneur, voilà. Bon, on n'a pas fait l'Euro 2008 ni l'Euro 2012.
Il y avait un joli bar au rez-de-chaussée, au sous-sol.
La prochaine fois, on fera un Euro symbolique avec 2012 et 2008, quand même, Jean-Michel. Il y a des belles histoires à raconter aussi, à cette époque-là.
2012.
Non, mais 2004, en plus, c'est la fin et on finira là-dessus, mais on embrasse Claude Simonnet. Mais en fait, président de la Fédé, Claude Simonnet, et quand tu avais la nouvelle génération dont je faisais partie et d'autres, mais ils ne connaissaient même pas nos prénoms, quoi, tu vois. Président de la Fédération française de football.
Les joueurs de l'équipe de France ne connaissaient pas ton prénom, hein, pour certains.
Non, mais arrête. Franchement, c'est problématique.
Merci Steve Marley, merci beaucoup.
Merci Steve, en tout cas, et bon courage pour
j'ai réouvert ma cicatrice.
Ah ouais, là, écoute, j'espère que tu pleures pas avec.
La séquence humour était magnifique quand même.
Non, normalement, c'est une séquence souvenir, on n'est pas censé rire autant. Hein.
Bravo. Mais non, c'est une séquence humour.
C'était une séquence émotion.
Allez-y.
C'est une séquence émotion.
Vous pouvez podcaster les euros symboliques de Rotten sans flamme toute la semaine, il y en a 5 à disposition. Dans une seconde, on lance l'euro. On retrouve Jeannot Rességuier pour Allemagne-Écosse ce soir et on va faire avec des supporters autour de deux Zerbi. Peut-il faire des miracles avec cette équipe de l'OM? A tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme. Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h33 sur RMC. Oui, on arrive bientôt à la fin de l'émission avec Papa Schulz. C'est le début de l'Euro en Allemagne. L'Euro 2024 qui débute ce soir. Hein, Jean-Michel Larqué avec nous.
Oui.
Jean-Mi.
Oui.
L'Euro
oui,
en Allemagne,
oui.
Ça parle quand même.
L'Euro en Allemagne, c'était ma première ou une de mes premières grandes compétitions en Allemagne.
C'est pour ça que ça te parle. On est avec Tony Vérel aussi.
J'étais jeune, j'étais
il
pas
a
bon.
Souvent brillé avec contre les clubs allemands.
Oui.
Et Jean-Louis Tour.
Et on va tout de suite en Allemagne, à Munich. Puisque dans maintenant moins d'une heure et demie, c'est le coup d'envoi de l'Euro Allemagne-Écosse. Jeannot Rességuier, la voix du foot sur RMC, sur place, bien sûr. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Bouton tac, Jeannot.
Ah, Jeannot. Ah.
Oui, capitaine.
Prêt à mettre le feu, Jeannot.
Vous m'avez bien fait rire, hein, vos mémoires des 20 ans en arrière. Là.
Ah ouais.
Ah oui, on est sur 2004, ah bah, là. Ouais.
J'ai vécu quelques situations ubuesques. Et voilà.
Non, on a bien fait ça.
On aurait pu parler de toi, c'est vrai.
Moi aussi, Jacques Santini, t'as dit que t'allais rentrer.
Je savais que j'allais au bout. Donc ça, c'était réglé comme du papier à musique.
Bon, raconte-nous autour de toi, les Allemands sont prêts à s'enflammer, là, à mettre le feu?
Ouais, mais ils sont entre ambition et patience et impatience, surtout de retrouver la compétition après la Coupe du Monde de 2006, où ils avaient réussi quelque chose d'extraordinaire au niveau des festivités. Alors sur le terrain, ils avaient été battus en demi-finale, ils avaient remporté la petite finale, mais ils ont encore ce souvenir en tête de cette compétition, et ils ont tout simplement envie de démontrer que depuis 2014 et la victoire à la Coupe du Monde et la demi-finale perdue contre la France en 2016, plus rien ne s'est passé pour les Allemands. Alors pour cela, ils se sont appuyés sur l'arrivée du jeune entraîneur Julian Nagelsmann comme sélectionneur depuis octobre pour entamer une rapide reconstruction, 8 matchs pour trouver les bons joueurs, surtout un bel équilibre qui faisait défaut jusqu'à présent, installer Havertz comme avant-centre, rappeler quelques anciens, Müller, Kimmich, repositionner latéral gauche, convaincre Kroos qu'il pouvait faire une dernière pige avant de terminer sa carrière, lui qui était absent au Qatar, faire des choix forts, hein, Hummels, Goretzka ou encore Gnabry qui ne sont pas là, et donc arriver tout doucement à réaliser quelques performances dans la préparation. Ils ont battu la France, ils ont battu les Pays-Bas, ils viennent de faire match nul contre l'Ukraine et de battre la Grèce, oui, mais bon, sans trop de réussite au niveau du collectif, et en plus avec des imperfections. Neuer est discuté, on lui préfère Ter Stegen, bref, il y a plein de choses qui font que tout le voile peut se lever ce soir des incertitudes autour de ce match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. Ils seront entre 40 et 50 000 Allemands. Ils seront entre 20 et 25 000 Écossais. Ce sont eux, dès hier soir à Munich, les Écossais, qui ont mis l'ambiance avec leur kilt, avec leur cornemuse. Les Allemands ont bien répondu aux terrasses des bars avec la chope de bière à la main. Bref, on a le sentiment, en tout cas, avant de parler sportif et de voir ce que ça va donner sur le terrain, que déjà, au niveau des festivités, ce championnat d'Europe débute plutôt bien ici en Allemagne.
Très bien. Écoute, Jeannot, on va rester sur ce match. Jérôme,
ouais.
On a envie de s'emballer là. On a envie quand même d'avoir un feu d'artifice dès le premier match. Tu crois?
Feu d'artifice, je suis pas sûr, parce que rappelle-toi toutes les compètes, hein, le pays hôte quand il débute, c'est rarement festival et victoire large. Je pense que le match va être très serré. Les Écossais vont défendre beaucoup. Les Allemands sont attendus. Il y aura peut-être un peu trop de pression au début, et ça va se libérer au fur et à mesure de la rencontre. Moi, je vois une victoire allemande quand même, mais je pense qu'ils vont mettre le temps à rentrer dans leur compète. Et puis la formule fait que aujourd'hui il n'y a pas une pression particulière supplémentaire sur une obligation de résultat d'entrée, quoi. Tu vois, si tu fais un match nul, c'est pas non plus dramatique. Donc le match va être serré. Il faut juste voir le plaisir ailleurs que forcément sur le terrain. Mais cet engouement qu'il y a, populaire, c'est un pays de football. Et en général, les Allemands ils savent recevoir, ils savent organiser. On l'a vu en 2006. Donc je suis sûr qu'on va vivre une belle compète.
Jean-Michel, il t'excite, ouais, cet Euro, toi qui en as tant connu?
Écoute, il m'excite en tant que honnêtement, en tant que spectateur passionné. Il y a pas de souci, les grandes compétitions, il y a toujours un parfum très spécial. Mais c'est vrai, je t'assure et je te dis le fond de ma pensée. Je trouve que, y compris en France, alors en Allemagne, Jeannot nous a dit que ça frémissait un petit peu, mais autour de moi ici,
c'est le calme plat.
Ah, c'est le calme, ouais, c'est plat. Vrai. Je sens Jean-Louis, puisque hier on parlait des joueurs et de la politique. Je pense qu'aujourd'hui il y a une forme de chape sur les spectateurs, et même ceux qui aiment le football, ceux qui sont passionnés, on a l'impression qu'ils ont d'autres préoccupations, qu'ils sont un peu tristounés, qu'ils sont un peu angoissés, que je t'assure, je sais pas. Alors je suis
ça
pas
peut être justement une parenthèse, hein, une bouffée d'oxygène,
ouais, absolument.
Moi, je pense.
Mais il y a quand même, j'ai rarement senti lors d'une grande compétition internationale une chape aussi pesante sur les esprits des passionnés, vraiment.
Tony.
Oui, non, non, mais je pense que Jean-Mi, il a raison, parce que c'est vrai que on sent quelque chose derrière qui est au moins d'engouement au départ, mais je pense sincèrement, et les Allemands, on aime ou on n'aime pas, mais ils ont cette façon de vivre ce genre de compétition, de les organiser aussi, qui moi me laisse présager. Enfin, je pense sincèrement que ça va être un bel euro, parce que justement personne ne s'attend à ce que ça soit quelque chose de retentissant comme certaines autres compétitions qui sont majeures. Mais moi, je suis persuadé que ça va être un bel euro. Et même si je ressens aussi, comme Jean-Mi, cette ambiance, cette un peu pesante, je pense sincèrement que ça va être un bel euro. Les Allemands vont être prêts. C'est chez eux. Ils l'ont, à mon avis, bien préparé. Je pense que dès ce soir, on va avoir quand même un beau match, parce qu'ils seront pas là pour faire la figuration, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va vivre une belle compétition, sincèrement. Même, enfin, j'ai regardé il y a pas longtemps le reportage sur Olivier Giroud. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer dans cet Euro. Et moi, j'attends beaucoup de cette compétition. Et sincèrement, je pense que ça va être, même si, comme le disait Jean-Mi, ça paraît, tout le monde en attend peu de cet Euro, mais moi je pense que ça peut être vraiment une belle compétition, pour que ça soit pour la France ou même en règle générale, quoi.
Et on va vous faire vivre un Euro exceptionnel sur RMC, donc en l'antenne plus, qui sera autour de l'Euro de 15h à 1h30 du matin. Ce soir, ça finit à 1h30 du matin, parce qu'il y a le match en intégralité à 21h, le débrief dans l'after, ouais, et la libre, ouais, antenne jusqu'à 1h30. Donc vous pouvez appeler au 32-16 jusqu'à 1h30
pour parler foot. Quel dispositif exceptionnel.
Ah mais c'est exceptionnel, Jean-Michel. Une dream team de fou, bien sûr, avec vous.
Je me demande, messieurs, quel est le rédacteur en chef qui a mis ce dispositif en place.
Là, c'est pas que le rédacteur en chef, ça va plus haut. Parce qu'il y a donc toute la dream team mobilisée. Vous, Manu Petit, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Louise Anessib, même Pascal Olmeta, enfin vraiment tout le monde.
Même Pascal Olmeta,
ouais. Comment tu vas lui expliquer ça, le même?
La radio 100% euro, disponible sur l'appli RMC. Là, vous avez de l'euro 24 heures sur 24. Ah ouais. Tous les matchs, etc. Avec Jérôme Sillon pour présenter les émissions. Ça va être magnifique.
24
heures sur 24.
Il dort pas.
Il y a un système de rediffusion, t'inquiète pas.
Ah, ouais, d'accord.
Et puis, en plus, donc, on vous envoie à l'euro. On vous offre vos places. Hier, on a offert des places pour France-Pays-Bas. Là, peut-être que vous avez été tiré au sort pour les places pour France-Pologne. Et ça va être comme ça tout au long de l'euro.
Ah
oui. Et les jours de match des Bleus, quand même. Jérôme, tu seras à Mâcon lundi, chez Antoine Griezmann.
Et là, venez nombreux, l'UF Mâconnais. On arrive, les Mâconnais, on compte sur vous pour venir. Il y a 1000 places.
Ce sera ouvert au public.
1000
voilà.
places au stade Guérin, à Mâcon.
Écrivez-moi un mail à public@rmc.fr.
Exactement. Et il y aura donc l'émission Rotten sans flamme. On sera sur place avec vous pour lancer le match de l'équipe de France. Après, il y aura le match et il y aura l'after dans la foulée sur place. Donc, toutes les équipes d'RMC se mobilisent pour être aller en province à votre contact et dans surtout les villes des joueurs français.
Voilà. Jérôme se déplace en province, donc profitez-en pour aller à sa rencontre.
C'est beau, c'est dingue.
Vous verrez comme
c'est
il dingue. Est sympa.
Ah oui.
Dans une
plus
seconde,
sympa que certains. Ça,
le
c'est
quiz
sûr.
Pour bien finir la semaine. Eh oui, Jean-Michel.
Je croyais
eh oui.
que c'était hier le
sans jour. Julien Cazard. Non, quiz. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme. Euro 2024.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC, les 10 dernières minutes et avant l'entrée dans cette compétition, le lancement de l'Euro 2024, Allemagne, Écosse, on est très excités à finir déjà l'émission avec Jean-Michel Larquet, avec Tony Vérel et avec Jean-Louis Tour. Ça va être le quiz. Et après, on vous lance. Allez, écoutez cette musique fantastique.
Magnifique, on va avoir ça pendant un mois. On va se régaler. Allez, on joue.
Là, c'est la fessée.
Rotten contre le reste du monde, saison 3.
Alors, le match à 21h, Allemagne-Écosse, bien sûr, en intégralité sur RMC, débrief dans l'after. Et ensuite, la libre antenne sera là de 12h30 à 1h30 avec Thibaut Giangrande et Oussem Loussaïef.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme.
Et là, pour remplacer Julien Cazard.
Oui, parce qu'on m'a dit que Julien était déjà ivre. Non, c'est pas ça.
Il était pas loin.
Il en Allemagne.
Ah, c'est pas ça. Voilà. Okay.
Merci de faire le quiz.
Mais les gars.
Bon, en même temps, tu t'es pas débordé aujourd'hui. Mais merci quand même.
C'est pas faux.
Il y a une enceinte de Lexon à gagner, la Minoté, celle qui a un design épuré. Ce sera soit pour William, soit pour Tariq. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut.
Salut les gars. Salut les gars.
William, tu veux faire équipe avec Jérôme ou avec le reste du monde?
Avec le reste du monde.
Allez, oui.
Oula, oula.
Tariq, tu es avec Jérôme.
Moi, j'ai une question parce qu'il n'y a que Jean-Mi qui est honnête parmi vous. On est sur un grand chelem ou pas?
Non,
c'est pas un grand chelem. Ok, très bien.
Déjà, c'est pas beau parler Tony comme ça. Respecte un peu Tony.
Je sais que tu triches.
C'est pour ça. Non, parce qu'il a dit il n'y a que Jean-Mi Michel qui est honnête sur le plateau. Je dis, c'est pas beau. C'est pas beau de parler de Tony comme ça.
C'est parce que Tony n'est pas sur le plateau.
Bien sûr.
Allez, on démarre, Jean-Louis.
Allez,
c'est parti. On démarre avec une question flash. Ce sera beaucoup autour de l'Allemagne et de l'Écosse, vous l'imaginez bien. Question flash. Quel pays de l'Est est dans le groupe de l'Allemagne?
La Tchéquie?
Non.
La Tchéquie.
Ça n'existe plus, Jean-Mi.
La Yougoslavie.
La République tchèque.
Non.
Essayez la Yougoslavie.
Non.
La Slovaquie.
Non. Allez, les gars, vous avez préparé votre euro. Hein.
L'URSS, peut-être.
Et Jérôme,
La Hongrie.
Qui a dit la Hongrie? Je crois que c'est Tony qui a dit en premier. Non,
Tony.
C'est
Tony. Le journal, ça va, là. Un moment, quand même. Il défie le journal sous nos yeux. Faut pas exagérer, quand même.
Bah, écoute, moi, et alors? Eh, t'as perdu.
Et alors?
Allez, on enchaîne.
J'ai le guide de l'euro. J'ai le droit de le regarder.
Même pas triché correctement. On enchaîne. Kikseti, vous l'avez compris, c'est un jeu de mots pourri. Quel joueur écossais est le fils de Pires? Quel joueur écossais est le fils de Pires?
Robertson.
Bravo Tony. Robertson.
Oh, bien joué.
Hey, il est chaud Tony. Il est chaud Tony.
J'ai pas le journal.
Ah, il triche. Il triche Tony.
Troisième question, Kikseti toujours. Comme vous connaissez l'effectif écossais par cœur, je viens de m'en rendre compte.
Ça collait pas, moi.
Quel joueur écossais est moins rapide que son cousin Lynn Ford? Quel joueur écossais est moins rapide que son cousin Lynn Ford? Il faut avoir un peu de culture générale sportive, bien évidemment.
Omni.
Jean-Michel, je suis étonné. Là.
Oui, Barcelone 92.
Ah non, mais là, je suis en vacances.
Ah, t'es en vacances, d'accord.
Le cousin Lynn Ford, Christy. Bien joué, Jérôme. Ryan Christy. Bien joué. Ça fait 2-1, Jean-Michel.
De la culture, ça. Exactement. Quand tu m'as parlé de culture, tout de suite, j'ai une lumière.
Tu sais quoi? T'as mis 4 minutes à répondre, donc tu vas pas fanfaronner.
Tu es culturé.
Non, mais
c'est incroyable.
Comme tout de suite, j'ai une petite lumière qui s'est.
Comme t'es quelqu'un de culturé, comme dit Tony, on va rester sur le kick et cultivé. Quel joueur écossais peut être aussi bien un junkie de Glasgow qu'un maître Jedi? Un peu de cinéma. Quel joueur écossais peut aussi bien être un junkie.
Qui Magin?
Non, on n'est pas loin. Un junkie de Glasgow ou un maître Jedi? Qui a joué le maître Jedi, les gars?
McGregor.
Eh bien joué. Voilà, McGregor, référence à Ewan McGregor. De partout. Et il revient.
Super match.
Super match. Quand tu parles de culture, là, tout de suite, c'est.
Bon, Jean-Michel, sort de tes vacances, là.
Non, mais je suis en vacances. J'ai donné les deux derniers quiz, j'ai tout donné.
Jean-Michel, pas payé. Hein.
Jean-Michel, est-ce que tu veux une question, Mathieu Bonnemer?
Pourquoi pas?
Allez, question, Mathieu Bonnemer.
C'est la question, Mathieu Bonnemer.
Attention. Vos goûts culinaires sont attendus. Quel est ce gâteau britannique à base de farine, d'œufs, de graisse de bœuf et de raisin sec?
Ah, le pudding.
Bravo Jean-Michel, le pudding.
C'est dégueulasse.
Ah, c'est pour ça que c'est dégueulasse, j'ai pas voulu le dire.
Comme beaucoup de choses qui se font aussi dans la cuisine britannique. Disons-le.
Mais non.
Écoute, disons-le.
Les beans, c'est bon. Hein.
Écoute. Question double-double.
Ah, tu le sais, toi, non?
Attention, culture double. Foot. Question double-double. Messieurs, quel est le meilleur buteur de la sélection écossaise dans l'histoire? L'histoire de la sélection.
Ah oui, mais.
Non.
T'as joué en Écosse.
Ali Matkos?
Non. Le meilleur buteur de la sélection écossaise.
Bah, c'est qui celui-là?
Franchement, Jean-Michel, tu peux connaître quand même.
Mais oui, le petit merde, le petit avant-centre.
Petit mince.
Mince.
Ouais.
Question double-double, ça vaut 2 points.
Mac.
Daglish ou Denis Lowe?
Daglish et Denis Lowe à égalité.
Oh bravo Tony. C'est arrivé d'un coup, t'as trouvé les deux.
Et une belle connexion internet.
Tony joue particulièrement mal la comédie quand même. C'est incroyable.
Non, mais Tony, et toi ça te fait rire.
Il triche.
La triche est avérée et ça te fait rire. Est-ce que c'est de ma faute?
Messieurs, non mais le jeu veut qu'on puisse. Essayez de se remémorer ce qu'on connaît.
Vas-y, enfonce-toi.
Bravo, t'as réussi à te souvenir.
Bravo, allez, double-double, tu continues. Attention, parce que c'est un double-double. Parce que c'est un double-double et que t'as une bonne connexion internet. Ils sont à combien de buts?
Je suis une trentaine, je pense.
30 buts, bravo. Bravo.
Non, mais là, on lui donne pas le point.
Non,
là.
on donne pas. On compte pas celui-là.
Toujours 5-2.
C'est un vol quand même.
Allez,
c'est un vol bien
c'est
fort.
C'est pas beau, ça.
Non, mais qui que c'est, Tidon, la charade.
Quand même.
Ah.
Ouah, il a un deuxième joker.
Ouais, mais les jokers, c'est Jean-Louis, gros.
Jean-Louis
Tour,
mais
non, c'est Jean-Louis Tour, elle est même tout fragile de Compiègne. Non, Jean-Louis Dinefra, Jean-Louis le Tarba. C'est Jean-Louis le fou, là, Jean-Louis sa mère.
Allez, Jean-Louis sa mère.
Allez, Jean-Louis le Tarba.
Allez, vous êtes prêts, messieurs?
Allez, Jean-Louis le Tarba.
Allez, mon premier. Mon premier.
Attends, c'est lui qui le dit.
Concentration au fond de la salle. Mon premier est une artère de la ville. Mon deuxième peut empêcher l'eau d'inonder un village. Mon troisième est déclaré. Bien joué, Jean-Michel. Antonio Rudiger. Rudiger. Bien évidemment.
Arrête de faire waouh.
C'est bravo,
écoutez. Waouh. Quelle culture, dis donc. Et moi, je triche pas, Jérôme.
Moi non plus, ça se voit. J'ai marqué que deux points.
Allez.
Nouveauté de Julien. Tiquez pas.
Oui.
Vous êtes prêts?
Jérôme est très bon.
Ça, j'ai jamais compris la question.
Citez-moi un joueur allemand pas champion du monde. C'est pas évident.
Un joueur allemand,
pas champion du monde.
Mais allez, c'est n'importe qui.
Podolski. C'est champion du monde.
Champion du monde.
Ah bah oui. Kimmich, champion du monde.
Non mais vous êtes un
Schlotterberg.
Voilà.
Schlotterberg.
En plus, le joueur n'existe pas.
Schlotterberg qui joue en ce moment, il n'est pas encore champion du monde. On aurait pu citer Schuster, qui est quand même un illustre joueur qui n'est pas champion.
Non mais t'aurais pu citer n'importe qui.
Ah mais j'ai dit Schlotterberg. Allez, vous êtes prêts? Kikawej ici.
Bon, bien joué, c'est 2 points.
6-4. C'était 2 points.
Non, 2.
C'était
2 points. Un point.
Allez, 6-4. Dernière question.
Dernière question.
À 2 points.
On fait une dernière question. Allez, dernière question. Kikawej ici.
Allez.
Fiorentina. Fiorentina. Wolfsburg.
Chiesa.
Stuttgart.
Gomez.
Bayern. Mario.
Allez, balle de match.
Balle de match, c'est culture partout.
Quand on parle de foot, tout de suite, il n'y a plus personne.
C'est incroyable. Attention, on va finir avec un coin qui kiff.
Oh.
Jürgen Kohler, Gerd Müller, Karl-Heinz Forster.
Meilleur buteur de l'Euro et.
Non.
Jürgen Kohler, Gerd Müller, Karl-Heinz Forster. Ça n'a pas. Il n'y a aucun lien avec le football.
International.
Ils ont un homonyme qui ont été internationaux.
Excellent!
Poster. Bravo à William qui remporte l'enceinte victoire.
Y a vol, Jean-Michel.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.